Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à tous. Et si je vous proposais une discussion autour d'un thé ? À chaque échange, je serai accompagnée de professionnels, parents ou de jeunes pour aborder une thématique sucrée liée à la parentalité. Aujourd'hui, nous recevons deux profils, deux visions, donc deux expertises, mais surtout et avant tout un plateau de parents. Nous sommes là ensemble et je vous propose tout de suite de vous présenter nos invités du jour. Almami, comment tu vas ?
Ça va, merci. Et vous ?
Ça va très bien, merci. Heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es papa d'une famille recomposée avec deux enfants à ton actif et père d'un foyer de trois enfants. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Alors moi, Almami Kanouté, ancien travailleur social, quoi, je le suis toujours, mais maintenant à mon compte, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, je suis consultant et intervenant social. Donc j'interviens un petit peu partout en France à travers cette activité qui prend énormément de temps, mais que j'exerce avec grand plaisir.
Super. Aïtem, tu es également papa. Comment tu vas, Aïtem ?
Bah écoute, Ami, bonjour à toi.
Bonjour.
Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir.
C'est toujours un honneur d'être avec vous. Surtout que je suis avec une vraie bande d'amis, là.
Ouais, mmh. C'est vrai. Un plateau sale. On a dit sucré, mais on aurait pu dire sale.
Ou salé.
Salé. Aïtem, tu es papa également de deux adolescentes.
C'est ça.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Aïtem, père de deux enfants déclarés. Mais dans mon suivi de tous les jours, j'en ai l'impression que j'en ai 50. Voilà, non, pour rigoler, non, je suis père de famille, d'adolescente, et je suis très content d'être ici parce que la parentalité, c'est quelque chose qui me questionne tous les jours. Mmh. Et dans mon quotidien, je rencontre des parents qui me parlent de leurs soucis. Et quand je parle avec elles, parce que souvent c'est des femmes, je leur dis, mais vous écoutez, je suis là pour vous aider, mais moi-même, je suis un père de famille, et quand il y a les émotions, enfin voilà. C'est très difficile d'éduquer ses enfants, surtout aujourd'hui.
Merci Aïtem. Les chroniqueurs de on met les pieds dans la tasse, Booba et Barberiche, comment allez-vous ?
Ouais, ça va, tu as parlé de sucré, salé, moi je rajouterais pimenté. Ça va être pimenté aujourd'hui.
Il y en a pour tous les goûts du coup. Booba, tu es également papa de deux enfants.
Exactement.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Booba, papa de deux enfants. Une de 14 ans et une de 8 ans bientôt. Et travailleur dans le social depuis 23 ans maintenant.
Ok. On entendra ta rubrique un peu plus tard dans l'émission. Barberiche, tu te présentes ?
Ouais. Je suis papa de 3 enfants et de plein d'autres. Parce que souvent, j'aime bien appeler les enfants de mes frères et sœurs mes enfants. Donc c'est pour ça que. Et je dis que j'ai plein d'enfants, parce que je suis leur tonton préféré. Donc
comme par hasard. tout de suite, la thématique du jour, parcours de délinquance, enfants délinquants, il y a un sujet, mais aussi parents d'enfants qui peuvent par moment poser des actes de délinquance. L'idée, c'est de savoir un petit peu quel est notre point de vue à tous en tant que parents avant tout, avec une expertise professionnelle quand elle a lieu d'être ou lorsque vous le souhaitez. On rappelle aux auditeurs que l'idée d'autour d'un thé parentalité, c'est vraiment d'échanger sans se prendre pour personne. Juste, on est des parents, on se questionne, on est engagé. Et ma première question pour vous, c'est quel constat vous faites sur la jeunesse et les familles aujourd'hui ? Qui se lance ?
À Booba. Tu t'es lancé, je t'ai vu.
Il a pris sa respiration.
T'as pris ta respiration, c'est toi.
Moi, j'ai pas l'habitude de commencer.
Bah vas-y, tu commences.
Je laisse mon hôte, Barberiche.
Moi, vous connaissez mon point de vue. Pour moi, je vais commencer par pas tous. Pas tous. Parce que je veux pas essentialiser, mais je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des parents qui sont immatures et qui ne sont pas... capables, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir éduquer bah, des enfants qui, par définition, sont immatures. Donc, c'est ce qui complexifie un peu les situations aujourd'hui, à mon sens.
Ok, toi, t'es dur. Almami.
Catastrophique, je dirais.
Mais c'est quel plateau que j'ai fait là ?
Le constat, il est complexe. Il est complexe et je dis catastrophique puisque souvent on focalise la problématique sur les ados, sur les jeunes. On se concentre sur eux à en oublier la base. Et quand je parle de base, c'est le socle familial. Mm. Et on ne prend pas le temps de vérifier si l'un des parents ou les parents sont eux aussi en difficulté. Mm. Et là, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre le trajet ou les trajectoires des ados, des adolescentes.
Okay.
Sur le chemin du bien ou du mal.
Et sur la jeunesse.
Et sur la jeunesse, alors je dirais plus ou moins, parce qu'on a une jeunesse de plus en plus autodidacte, autonome, mais pas forcément dans le bon sens, puisqu'on est dans l'ère digitale. Mmh. Aujourd'hui, on a affaire aussi à une jeunesse qui veut tout de suite, en un clic, j'ai envie de dire. Et c'est bien plus complexe que ça de bien s'asseoir sur justement l'environnement qui nous entoure, les difficultés. Tout le monde aujourd'hui est omnibulé, en tout cas chez les jeunes, dans leur tête. Réussite, succès. Mmh. Que le bling-bling. Et ça, c'est dangereux. Et si nous, adultes, on n'est pas là pour les remettre à leur place, mais je dis bien pédagogiquement, hein,
ouais, bien parce
qu'il y a différentes méthodes de remettre en place une partie de notre jeunesse.
Il y a un vrai sujet en plus.
Exactement. On a cette responsabilité aussi. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord que, voilà, sur la question de la responsabilité, si nous, déjà, on ne montre pas l'exemple, il ne faut pas qu'on vienne se plaindre que derrière, notre jeunesse se comporte mal.
Item.
Moi, j'ai dû. Tu peux reposer la question. Là, j'ai besoin parce que faut pas que je sorte une réponse qui n'a rien à voir.
Ouais. Après, là, l'idée, c'est vraiment quel est ton constat aujourd'hui vis-à-vis de cette jeunesse et des parents, des familles. Juste ton constat, ce que toi tu constates aujourd'hui hein, par rapport à tout ça.
Moi, j'ai du mal de dire que c'est de la faute à qui. Pour moi, c'est la faute à tout le monde et la faute à personne.
Ouais.
C'est générationnel aussi. On est dans une nouvelle ère, comme j'ai entendu mes collègues le dire. C'est vrai qu'on est dans une nouvelle ère. Moi, ce qui me semble... Bah, en fait, souvent, on me dit « Oh, t'as vu les jeunes d'aujourd'hui ?» Je leur dis « Oh, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est à cause des parents d'hier. » Et les parents d'hier, c'est qui ? C'était nous. Parce que nous, je le dis tout le temps, on sort toujours la même version. On fait partie d'une époque où nos parents, quand on allait à l'école, on se faisait engueuler par le prof et les parents prenaient le parti des profs. Et aujourd'hui... Si le prof il parle mal à l'élève, bah les parents ils sont contre le prof. Donc on a vraiment démystifié le prof et du coup on a donné une force à ces enfants-là. Et puis c'est une autre époque parce qu'avant on était plus de 3 enfants, si c'est pas plus, tu vois. Donc on était des familles nombreuses et tout le monde c'était des parents. Donc on a tous notre responsabilité. Maintenant c'est chacun pour soi, on ne connaît plus nos voisins, on ne connaît plus personne. Et nous qui avons vécu tes parents, ils tapaient pour le prof, bah aujourd'hui, faut que personne tape nos enfants, c'est nos enfants, personne ne les touche. Et je pense qu'on est tous responsables. Mmh. Après, moi, j'ai vu tellement de choses, j'ai vu des parents, tu dis que c'est eux, en fait, c'est pas eux, c'est la faute à tout le monde.
Mmh. En tout cas, c'est un peu la faute des adultes, tous les adultes.
Pour moi, c'est la faute des adultes.
Parce que les enfants, eux, ils sont la résultante de nos positions, de nos fonctionnements. Mais un enfant, quand il naît, c'est une page blanche. Ça veut dire que c'est les adultes dans la coéducation qui sont à questionner si la jeunesse va mal.
Bah, l'enfant est né avec des frustrations. Et nous, on est là pour lui donner de la frustration. C'est comme ça qu'il va s'éduquer, qu'il va se socialiser. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de frustration, l'enfant d'aujourd'hui.
Ouais, ok.
En tout cas, il a du mal à les gérer.
Il a du mal à les gérer. Mais une fois de plus, qui apprend à l'enfant à gérer ses frustrations ?
Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui,
qui
vu qu'ils sont immatures, ils sont eux-mêmes frustrés.
Et pas que les parents.
Non, la coéducation.
Parce que il faut pas oublier, et là pour le coup, je parle sous couvert de mes amis, parce que vous êtes mes amis, et que je connais pour beaucoup depuis des années. Avant, on avait des gens, on avait nos parents qui sont arrivés, pour la plupart, de l'immigration, etc. Mais on avait des parents de substitution dehors, notamment, moi je donne le nom à Zdine Zogby que j'ai connu, qui m'a éduqué aussi à sa manière, parce qu'il faisait des fêtes de quartier, c'est un mec qui était présent depuis des années. Et tous ces gens-là ont participé à notre éducation, ça veut dire qu'on avait l'éducation, nos valeurs de nos parents, et à l'éducation, bien sûr, première, c'est l'école. Et voilà, en fait. Et aussi, nous, notre rôle aujourd'hui, si on est ce qu'on est, je pense que beaucoup, c'est grâce à des Zdine Zogby qu'on a tous connus, chacun dans son quartier, Sevran, Grigny, etc., Fresnes. C'est ces gens-là qui nous ont dit, non, tu vas grandir, mais fais grandir les autres et oublie pas les autres. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui, parce que moi, je mets la faute à personne. Je suis moi-même responsable des enfants d'aujourd'hui. Et moi-même, des fois, je suis pas toujours au top. J'essaie de transmettre, de donner. Et il faut savoir aussi faire preuve de discernement avec ces jeunes, parce qu'eux-mêmes, il faut qu'on fasse attention à leur discernement.
Bouba ?
Moi, je crois qu'on est le fruit de notre environnement, comme nos enfants sont le fruit de ce nouvel environnement. Et moi, je crois aussi que pouvoir travailler avec ce monsieur-là, Item, il y a 23 ans maintenant, d'ailleurs, 2000, on était dans les emplois jeunes, médiation, tout ça, tu vois. Et je me souviens qu'on avait un responsable, Mustapha, qui nous disait, pour rebondir un peu à ce, par rapport à ce qu'il dit sur le fait qu'on est éduqué par plein de gens, il disait que c'est dans la confrontation qu'on apprend à mieux se connaître. Quand il m'a dit ça, quand j'avais 20 ans, j'étais comme ça. Et tu te rends compte qu'on est aussi d'une époque où, par le débat, on a appris des choses. Ouais. Moi, j'avais mon équipe, là, le CDR, mes gars avec qui j'ai grandi, on faisait que débattre. Et il y avait des gars qui lisaient, des gars qui... On avait beau être à Grigny dans ce qu'on était, tu vois. On avait quand même une éducation collective, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, nos parents, ils nous surveillaient de la fenêtre, tu vois. Donc, même si à des moments donnés, on a réussi un peu à dériver. Enfin, réussi. On a dérivé. Parce que... parce que, bon, à des moments donnés, on voulait dériver, tu vois. Et nos parents nous tenaient, tu vois. Et du coup, on était frustrés. Moi, je sais que lorsque c'était l'été, vous savez que le soir, comment dire, la nuit, elle tombe vers 22h. Mon père, il me disait, quand le ciel, il est rouge, tu rentres. Et moi, des fois, je restais un peu. Tu vois, je restais un peu. Et du coup, bah, mon frère, mon daron, il venait me chercher dehors. Hein. Tu vois, il venait me chercher dehors et il venait m'attraper, tu vois. Et du coup, chose qui, je sais pas si encore a lieu aujourd'hui. Enfin, si, c'est encore lieu. Parce que je connais des papas qui vont chercher leurs enfants dehors, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, on a grandi dans une éducation collective qui... Paco Rabanne, il parlait du bug de l'an 2000. Il disait que c'est les ordinateurs qui vont bugger. Je crois que c'est nous qui avons bugué, mais par la société. C'est-à-dire l'éducation collective, elle a grave diminué parce que l'euro est arrivé, beaucoup de problèmes d'argent, repli sur nous-mêmes et tout ça. Tu vois.
Ok, et vis-à-vis de la jeunesse, est-ce que tu as un constat ?
Bah, moi, je dis que j'y vois du bon comme j'y vois du moins bon. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui font... Je pense que si on fait des statistiques par rapport aux jeunes des quartiers de l'époque, il y a un peu plus de jeunes qui font des études aujourd'hui. Tu vois, moi, je vois des petits neveux à moi qui font des études de médecin, avocat. La dernière fois, on a rencontré un petit qui pilote de ligne. D'ailleurs, il faut que je le recontacte. Et à côté, bah, malheureusement, bah, les parents d'aujourd'hui, bah, c'est nous. Et je rejoins Barberiche. Et je rejoins aussi le constat catastrophique de Michel Mamie. Et ben, il y a des parents, ils sont immatures. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire devant leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, que ce que tu fais là, ton enfant, ça se trouve, il imite. Tu vois, et du coup, on a des parents qui sont frustrés. Moi, souvent, je vois même des parents, ils ont 40 ans et quelques, qui sont peu, hein, mais ils sont sur les réseaux et ils font des selfies bizarres. Enfin, je sais pas, ils font les jeunes. En tout cas, ce qu'ils font sur les réseaux n'est pas digne de leur âge. Tu vois.
Selon toi. Item, je te vois, tu as envie de rebondir.
Ouais, mais c'était pour dire l'immaturité, parce que tu peux être immature en tant que parent parce que tu es jeune ou parce que tu sais. Et puis, on n'a pas appris à être parent, donc on n'est peut-être pas prêt à être parent. Mais après, c'est ça que je voulais que tu me dises. C'est bien ça, c'est l'immaturité. Mais le problème, c'est quand dans une société. Parce que nous, nos parents, ils écoutaient de la musique du bled. Et nous, on écoutait du rap. Donc, il y avait ce fossé culturel. Mais aujourd'hui, on écoute du rap. On a 40 et quelques. On écoute le même rap que nos enfants, où ça insulte et tout. Mais c'est,
Moi, j'écoute pas de rap.
J'écoutais pas du rap, mais en tout cas, on est d'accord qu'on est, on a le même mouvement urbain. Tu vois.
Ouais.
Mais est-ce qu'on écoute vraiment les mêmes choses? Parce que tu parles de la musique et je suis sûre que toi-même, Aïtem, quand tu réfléchis bien, il y a plein de sons. On va dire, ouais, franchement, il pose bien ou l'instru, elle est pas mal. Mais le fond, il y a des musiques, elles sont... Enfin, c'est pas possible de les écouter. Est-ce que tu te poses cette question ou est-ce que toi, tout glisse? Parce que des fois, tu entends des sons, quand tu entends ce qui rappe ou ce qui chante, tu te dis, mais non, c'est pas possible, en fait.
Moi, je vais pas te mentir, je dis rien du tout. Hein. Je suis dépassé par les événements. Donc,
après, c'est-à-dire, toi, t'écoutes la musique?
Non, il y a des musiques, je sais que c'est trop hardcore, c'est hors de question. À un moment,
donc, tu vois, tu fais des choix, respecte. En fait.
Non, il y a des choix, il y a des musiques, ça passe pas du tout. Mais il y a des musiques, t'as vu, quand il dit des mots, je veux pas les dire là, mais tu vois, il le dit une fois dans une chanson. Vu que c'est écouté partout, t'allumes la radio, tu vas pas dire non, on n'écoute pas, tu vois.
Mais du coup, tu vois bien que finalement, tu fais des choix. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des musiques que t'écoutes pas. Donc, en vrai, je pense pas qu'on écoute la même musique ou qu'on l'écoute de la même façon que nos enfants, tu vois.
Ouais, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que c'est le même courant musical.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce fossé entre le parent et l'enfant. Il y avait une distinction, en fait, dans les codes. Et c'est vrai que notre génération...
Il y a moins.
On a les mêmes codes que nos enfants.
Bah, c'est ça.
C'est-à-dire que ce soit vestimentairement parlant, moi, mes enfants, elles veulent des Jordan. elles veulent des suites à capuche. Ouais, ouais. Moi, mes enfants, elles me font découvrir des artistes. On est en voiture, elles mettent de Spotify et je vais dire, ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal.
Du coup, Aïtem et toi, vous êtes d'accord sur ça? Je voyais Almami rebondir en faisant avec sa tête.
Après, je veux juste, on écoute le même courant musical, mais c'est vrai que moi, mes enfants, depuis qu'elles sont petites, en fait, j'ai quand même filtré un peu ce qu'elles écoutaient. C'est-à-dire que, comme le disait Aïtem à la radio, c'est vrai qu'il y avait certains sons avec des propos dégradants, obscènes, injurieux. Et ce qui se passait, c'est que soit on changeait la station, la fréquence, ou soit on baissait le son au moment où le gros mot... C'est-à-dire que moi, je connaissais la chanson... Et je baissais le son au moment où il allait avoir le...
D'ailleurs, quand elles chantent, elles s'auto-censurent. Ouais, c'est-à-dire, elles chantent des morceaux, ouais. Après, elles font un silence.
Elles ont quel âge?
Elles ont
15, 13 et 11. Et c'est vrai que même dans certains titres, on est dans la voiture, ça chante. Et dès qu'il y a un mot obscène...
Silence.
Et ça vient de ce qu'on leur a inculqué depuis qu'elles sont petites. C'est-à-dire que, comme tu le dis, bien entendu, elles sont dans un environnement, elles connaissent les codes, elles connaissent les mots, mais en notre présence, en tout cas, il y a ce respect. En fait, on leur a vraiment transmis ce truc de, en notre présence, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de morceaux comme ça. Et je vois au quotidien que c'est quelque chose qui est resté.
Après, effectivement... Il y a quelque chose de l'ordre du non-dit et on parlait tout à l'heure d'exemplarité. C'est-à-dire, dès lors que toi, déjà, tu vas baisser la musique ou que tes enfants, ils s'autorégulent. Parce que, et on va y revenir plus tard, mais on ne peut pas changer la société. Par contre, est-ce que notre rôle en tant que parents, ce n'est pas de préparer nos enfants à faire face dans cette société, à faire les bons choix, à ajuster leur posture? C'est-à-dire, le rap qu'on est en train de dénoncer, c'est le rap d'aujourd'hui, c'est un fait. Ce sont ces artistes-là qui passent, ce sont ceux-là qui sont dans le move, qu'elles ont envie d'écouter, ok. Mais où est-ce que tu mets la limite entre ce que tu écoutes, ce que tu entends, et ce que tu te permets de dire avec ta bouche, là, avec tes propres mots, tu vois? Almami, je te voyais réagir tout à l'heure en faisant «
Non, c'est quand Aïtem disait qu'on écoutait les mêmes sons... Bon, moi, c'est sûr qu'avec mes filles, on n'écoute pas les mêmes sons, puisque moi, c'est beaucoup de soul, de rap des années 80-90.
Ah, t'es un dinosaure.
Non, c'est un grand dinosaure.
Mais moi, je suis pareil.
Moi, je suis la génération boom bap, tu vois. Donc,
on a le droit d'être des dinosaures.
Ouais, ouais. Je le prends pas mal. Hein. Ouais.
Moi, je suis un tyrannosaure.
Je suis à l'ancienne. Après, de temps en temps, il m'arrive d'écouter des sons d'artistes du moment. Bon, j'écoute pas beaucoup de rap français, mais quand j'en écoute, c'est parce que l'artiste, le petit, dit des choses. Tu vois, par exemple, je vais citer un exemple, le petit Nino. Ouais. Je suis pas fan de tout ce qu'il véhicule, mais il a des sons. Il faut quand même souligner ou...
Respect,
c'est de l'écriture, c'est de la profondeur. Tu vois, c'est... Et pareil, sur l'autorégulation, mes filles, c'est pareil. Au début, j'avais pris abonnement Spotify enfant. La grande m'a fait remarquer.
Papa, calme-toi.
Non, les chansons, c'est des chansons nettes là. C'est,
là y a, des comptines.
Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je n'avais pas calculé. Moi, je me suis dit, tu vois, c'est le. Vu qu'on est dans l'ère digitale et de l'intelligence artificielle, moi, je me suis dit, les sons qu'elles aiment, elles vont pouvoir les écouter, mais avec la censure. Mm. Mais en fait, non.
Il n'y a que des comptines.
T'es, ouais, voilà. Tu n'as que des petites chansonnettes. Donc, du coup, j'ai mis, mais pareil, je leur ai apporté dans l'éducation. La manière dont vous pouvez écouter, et elles savent quand il y a les gros mots, bah, quand elles chantonnent, bah, y a le bip comme à l'ancienne, tu vois, il y a le blanc comme
on change de chaîne,
et où on change de chaîne, voilà. Et ça, et ça, pour moi, ça va dans ce que tu viens de souligner, c'est que nous adultes, on doit pas forcément être dans l'interdiction. Mais on doit être en capacité de leur apporter les arguments, les éléments qui, eux, vont leur permettre d'équilibrer, en fait, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. Là, c'est la musique. Bah, elles savent qu'il y a des propos qui sont interdits au moins de 18 ans. Bah, elles le savent. Mmh. Et en connaissance de cause, elles mettent le frein ou non.
C'est intéressant, là, c'est une bonne transition avec ma question suivante. Tu parlais de l'âge. Ça veut dire que nous, en tant qu'adultes, parents, éducateurs ou autres, est-ce qu'on n'a pas tendance à négliger... vous voyez, quand tu regardes la télé, il y a souvent un pictogramme avec l'âge. Sur les jeux vidéo, il y a souvent un pictogramme. Et souvent, en fait, en tant que parents, on décide de bouger le curseur de l'âge. Selon nous, notre vision. Ah non, là, il y a écrit moins de 16, mais vas-y, tu peux. T'as 13 ans, mais vas-y, j'estime que tu peux regarder. Alors qu'en fait, il y a une question autour de ça. Ma question d'après, c'était, on parle souvent du laxisme de l'État, mais qu'en est-il des parents ? Et là, j'aimerais mettre le curseur sur les enfants qui posent des actes de délinquance, parce que je sais que dans les auditeurs, là, il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance parce que leur enfant pose des actes et que des fois, Aïtem, il a dit, il n'y a pas d'école des parents. Ça veut dire, des fois, ce n'est pas juste ta faute parce que tu ne veux pas faire. Des fois, tu ne le vois pas venir. Des fois, tu n'es pas assez outillé. Mais du coup, quand on parle de laxisme de l'État, OK, c'est une chose. On ne va pas débattre dessus pendant des heures et des heures. Mais celui des parents, en termes de délinquance, est-ce qu'on en parle, Aïtem ?
Moi, je parle aussi du déni. Parce qu'on a des parents, on en a tous connu, que quand ils parlent de leur fils c'est le meilleur, il a jamais pu faire de bêtises, mais il se retrouve devant au commissariat, etc. Et le déni, il y a aussi plusieurs dénis, parce qu'il y a le déni de se dire que son enfant ne peut pas faire de bêtises. Mais je rencontre beaucoup de jeunes qui ont des problèmes psy. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi.
C'est pas l'impression, je confirme.
Il y a de plus en plus de jeunes turbulents avec des troubles du comportement. Expliquer à un parent que leur enfant il a des troubles du comportement, puisque j'en ai rencontré, elles vous disent non. Et le premier de mes combats, avant même de m'occuper de l'enfant, c'est de leur dire, mais votre fils, il a un problème. Regardez, il ne remplit pas les cases. Je crois qu'il a un souci. Et pour une mère, c'est... Et dans ces moments-là, je vois des mères qui aident leur enfant, qui donnent toute leur âme. Mais leur enfant, il a des difficultés, il a des troubles. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, il faut peut-être aussi trouver le bon diagnostic. Voilà.
Et c'est important ce que tu dis au niveau du diagnostic. Moi, en tant qu'éducateur, en tant qu'éducatrice spécialisée, il m'est aussi arrivé à l'inverse de voir des enfants qui développent un comportement qui semblerait relever d'un un trouble, alors que c'est une défaillance éducative de A à Z. Pas de la frustration, on n'y est pas, la gestion des émotions, on n'y est pas, l'enfant roi, tu lui as jamais dit non. Et du coup, cet enfant au début, ok, mais quand il arrive à 10, 15, 16 ans et qu'il a été éduqué sans cadre, sans être frustré, sans gérer ses émotions, mais quand tu le vois, l'enfant, c'est un diable. Excusez-moi, mais l'enfant, il peut poser des actes où tu te dis, mais il est malade, alors que ça, des fois, c'est aussi la résultante du comportement des familles, des parents, des adultes qui n'ont pas posé le cadre. Le cadre, ça permet de grandir, ça permet de sécuriser. Et un enfant peut avoir des troubles psychiques, réels, Il y en a de plus en plus, vous l'avez dit, mais il y a aussi d'autres enfants qui, au départ, ne présentaient pas de troubles. C'est la carence éducative, la posture, le non-cadre qui donne des résultats. Et dès que tu reposes le cadre, etc., en fait, cognitivement parlant, cet enfant, il n'est pas réduit. Ça veut dire que dès que tu vas poser le cadre, et là, c'est là où l'enjeu pour les familles il est de taille, c'est quand tu décides de reprendre les manettes. C'est très dur pour le parent.
Juste pour ajouter, un enfant naît avec la frustration. Et c'est à l'adulte de lui dire non. Mais le problème du non, c'est qu'il devient vite un oui, tu vois. Moi, je te le dis, mon non, il tient 2 secondes. Hein. Mais sauf que pour les faire évoluer dans la société, le jeune a besoin d'être frustré. Et de gérer sa frustration. C'est le semblable de l'homme.
Mais là je vais te rejoindre, c'est que c'est vrai que, après c'est reconnu hein, dans des études, hein, qu'à un moment donné, la frustration c'est constructeur. Et le problème c'est que, moi je crois que profondément la société elle est malade. Et du coup, ben, ça crée des êtres malades. Et malheureusement, ben, comme vous avez dit, hein, malheureusement mais bien heureusement aussi aujourd'hui, je crois que dans les quartiers en tout cas, ou même ailleurs, hein, c'est le fait d'aller voir un psy, c'est moins tabou qu'avant. Parce qu'avant c'était vraiment très très tabou. Là, on a des gens même qui se livrent sur des plateaux, des grands gaillards qui viennent et qui disent. Moi, j'ai déjà été face à des gars, moi, qui m'ont dit clairement, alors qu'ils m'ont dit clairement qu'ils sont partis voir des psys parce qu'à un moment donné, ça allait mal. Ils le reconnaissent. Alors qu'à une époque, c'était impossible que le gars issu d'un certain milieu, il dise, moi, je vais voir un psy. Parce que c'était un aveu de faiblesse. Tu vois, mais aujourd'hui, on affirme.
Ouais, vrai. Mais tu vois, là, je te rejoins à moitié parce que là, tu parles de... Tu vois, d'adultes qui, à un moment donné, ont eu ces prises de conscience. Tu vois, qui
élaborés et construits.
Voilà. Ouais. Mais les parents. Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours aussi difficile pour un parent d'accepter, comme le disait Aïtem, que son enfant est malade. Parce que moi, tu vois, même déjà, avant même de dire qu'il est malade, qu'il soit en échec. Nous, on a travaillé dans un projet de réussite éducative. Franchement, pour faire conscientiser aux parents que l'enfant, il ne répond pas au code demandé par l'éducation nationale, c'est compliqué déjà. Alors imagine pour lui dire que son enfant, il lui manque une case.
Après, moi je crois qu'on est dans une lutte.
Il manque une case, parle bien.
Non, mais parce que tout à l'heure, c'était pour rester sur la même sémantique. Vous avez parlé de...
Cocher les cases.
Il m'a dit cases.
Cocher les cases.
Il trouve du comportement, difficulté.
Il a dit cocher les cases, il manque une case.
Ouais, parce que là, vous faites des jeux de mots. Attention. Hein.
Moi, je crois qu'on est dans une lutte, en fait. C'est-à-dire... Et en fait, lorsque... Si on n'encadre pas nos enfants comme il le faut, eh ben... la société sera plus forte que nous. Tu vois, c'est-à-dire cette pression sociale, tout ça là, tout ce qui nous encadre sera plus fort que nous. Tu vois. Mais je rejoins Barberiche quand il dit que oui, c'est compliqué de faire reconnaître. Moi, j'ai des exemples là, concrets là, d'un jeune dont sa maman, dont je connaissais. Je me suis rendu compte au fil de la conversation et de l'entretien qu'en fait, cette maman-là, en fait, je l'ai vue plus jeune. Elle habitait en haut de chez moi. Tu vois. Et c'est à la fin, j'ai dit, mais...
T'es vieux. Femme, t'ai dit.
Ah ouais, je suis vieux, j'ai dit, mais attends, je l'ai vu, elle avait 16 ans, maintenant je vois son fils, il est là. En fait, on est en train de lui faire comprendre que ton fils, là, dû à un divorce et la séparation, il y a un problème. Et qu'à un moment donné, elle écoute.
Il y a une souffrance.
Le petit, s'il se comporte de cette manière-là et qu'à un moment donné, il a des comportements assez
donc,
violents.
Le problème, c'est mieux que case.
Ne vous inquiétez pas, je vais tous vous reprendre un par un.
C'est qu'il y a, voilà, il y a un problème et qu'il faut le résoudre. Et franchement, je le dis à des je le conseille à des adultes comme à des enfants, allez voir des psys, mais des bons psys. Tu vois, mais allez voir des psys, livrez-vous, allez vous livrer à des gens qui sont professionnels et qui à un moment donné ne vous jugeront pas. Mais c'est une solution en tout cas.
En tout cas. Ça répond aussi à une question qui se pose aujourd'hui d'un point de vue sociétal, cette question de la santé mentale. Quand on voit les actes qui sont posés et des fois qui sont réduits à des idéologies, alors que c'est juste un être humain qui va mal. Point de vue santé mentale, qui n'a pas été accompagné, qui n'a pas été diagnostiqué. Et du coup, ça va se manifester par un trouble qui peut venir s'inscrire dans quelque chose qu'il entend du soir au matin. Par exemple, on parle beaucoup du radicalisme, etc. Aujourd'hui, toi, si tu es malade mental, tu as une maladie mentale, et qu'en plus, du soir au matin, tu entends des choses sur la radicalisation ou autre, mais ton acte, il va venir se manifester dans la société nourri aussi par ce que tu consommes. Mais est-ce que à la base, c'est pas une question de maladie mentale? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on va faire le pont, et Almami, c'est à toi que je vais poser la question en premier, c'est aujourd'hui, quand on voit ces jeunes, hier encore, malheureusement, dans le 95, il y a une rixe entre Daumont et Aizenville, et il y a un enfant de 15 ans qui, encore, une fois de plus, une fois de trop, a perdu la vie. Est-ce qu'on en parle de la santé mentale des jeunes? Qu'est-ce qui pousse un jeune à commettre...
L'irréparable,
ça veut dire qu'il y a une bagarre et il y a aller donner la mort. Donner la mort, c'est-à-dire toi, tu sors de chez toi et tu joues à aller donner la mort. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est qui, Almami?
C'est souvent quand on met face à des faits et qu'on voit les gros titres des journaux ou des médias télévisés, mouvement radical, acte radicaliste et ainsi de suite. C'est souvent lié au fait religieux. Alors que moi, j'ai toujours dit dans mes interventions, mais le radicalisme, il est divers, en fait. On cherche à nous imposer et à nous forcer à avoir une seule lecture du radicalisme. Et je le dis, on a affaire à des gamins qui consomment certaines substances. Pour moi, ceux qui sont addicts à certains produits, c'est radical. C'est une forme de radicalisme. Là, pour revenir sur la dernière actualité dramatique, le jeune de 15 ans, paix à son âme, qui a perdu la vie lors d'une rixe, c'est une forme de radicalisme. Et aujourd'hui, on fait face, encore une fois, à des adultes qui décident de définir à quel moment on peut parler de radicalisme ou non. Là, tu as parlé de maladie mentale. Là, on a affaire à une bonne partie de notre jeunesse qui est malade de la violence.
C'est ça.
Aujourd'hui, aucune limite. Ouais, tu m'as manqué de respect. Ouais, tu as mal parlé de mon quartier. Ouais, tu m'as bousculé dans le bus. Ou tu m'as regardé de travers. Je vais te le faire payer.
Et en fait, dans leur... Je vais te le faire payer. Et je questionnais Barberiche en arrivant ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe entre... Qu'est-ce qui a bougé? C'est-à-dire entre « je vais lui régler son compte pour lui donner une bonne leçon », entre guillemets. Parce que avant, quand tu allais taper quelqu'un parce qu'il t'avait énervé ou quoi, c'est « je vais lui régler son compte pour lui donner une bonne leçon ». Aujourd'hui, c'est « je vais le canner ». Aujourd'hui, je vais le tuer. Et il le fait en plus.
Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus de code. Il n'y a plus de code moral. Avant, quand on avait un différend avec quelqu'un, tu ne pensais pas à tuer la personne. Tu pensais à te chiffonner. Je dis chiffonner parce qu'en vérité, même quand on parle dans les chiffonnades, on constate qu'ils savent pas se battre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'est arrivé à une certaine époque sur Fresnes. Deux petits quartiers de la ville, deux gamins qui avaient un différend, qui ont embarqué les copains d'un côté et ceux de l'autre. Lors d'un événement, ils veulent régler leur compte. Mais là aussi, je vais parler de radicalisme. On a été radical. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont pas voulu entendre quand on a essayé de les raisonner et tout. Ça nous a saoulés. On a dit, vous voyez là, le coin de pelouse là. Vous deux, vous avez un problème. Allez le régler. Celui qui bouge là, des deux côtés, c'est nous qui allons les régler. Personne n'a bougé. Ils sont revenus, essoufflés, t-shirt déchiré, éraflure par-ci par-là. On leur a posé la question. C'est réglé? Et Soufflé nous dit oui.
Ben oui.
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus rien entendu parce qu'eux-mêmes, ils se sont rendus compte du fait ridicule de la situation. En plus, je crois que c'était pour une casquette. Tu vois? Mais là, dans cet exemple, les adultes que nous représentions à l'époque, on a interagi. On n'a pas été observateur ou on n'a pas laissé faire. On sait qu'on a une partie de notre jeunesse qui est malade. Et quand on sait ça, c'est pas qu'on s'improvise à faire les docteurs ou les spécialistes ou les experts. En grande responsabilité, on se doit d'être bienveillant à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, on a à la tête de nos institutions et moi, j'hésite pas à le dire, hein, des irresponsables qui ne connaissent rien de la situation actuelle des choses. Là, on a eu la Crépole On en parle encore. Il y a eu des révélations là dernièrement. Ce qui s'est passé là récemment dans le Val d'Oise, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions. Là, ils vont pas prendre la parole en parlant des ministres. Ils vont pas prendre la parole en disant nos enfants, des jeunes de la banlieue du Val d'Oise se sont entretués et ainsi de suite. C'est entre eux. On les laisse s'entretuer.
Mais il y a un problème d'identification, selon toi. D'appartenance, ça veut dire que les jeunes ou les familles ne se sentent pas appartenir à cette société à certains instants ou face à la mort de certains de nos enfants. Moi, personnellement, quand on me dit la mort de Thomas, je suis impactée de la même façon que quand on m'a dit la mort de Naël.
Pareil pour moi.
Ou le jeune d'hier dont on n'a pas encore le prénom. C'est la mort d'un enfant.
Pareil pour moi, sur Twitter, par exemple, pour Thomas, j'ai passé mes condoléances et j'ai passé un petit message. Quand je l'ai fait pour Naël, il n'y a pas eu les mêmes répercussions. Et là, parce que c'est Thomas, ah merci pour lui. Ah. J'ai dit, mais en fait, Thomas, Mamadou, Naël, Kevin, c'est les mêmes en fait. C'est notre jeunesse, c'est nos petits frères. Et petits frères, c'est pas parce que je suis noir que c'est que les jeunes noirs sont mes petits frères. Non, tous. Tous. Tout à l'heure, Barbeu l'a précisé. Booba l'a précisé, Item l'a précisé. En fait, effectivement, on est père de famille, mais en réalité, de par nos activités, de par notre humanité, tous les jeunes sont nos petits frères, sont nos enfants. Et moi, quand j'interagis dans les transports en commun, parce que je prends encore les transports en commun, quand je vois des gamins mal se comporter, je me sens obligé d'interagir. Sans forcément les heurter. Bah, effectivement, il y en a certains, oui, t'es obligé de les frustrer. Parce que si tu ne le fais pas, ben malheureusement, tu laisses passer quelque chose qui pourrait être dramatique derrière.
Est-ce qu'on peut définir ensemble, essayer de donner une définition à cette frustration qui revient depuis le début? Mais du coup, pour accompagner cette frustration, faut-il encore comprendre ce qu'elle est?
Rapidement, j'ai eu droit à participer à une formation dernièrement avec un psychologue qui est formateur aujourd'hui. Et justement, tout ce qui est lié aux frustrations, aux émotions, lui, il définit ça par les pulsions.
Ok, tu nous expliques un peu.
C'est une histoire de pulsions. Il explique que tout être, et surtout chez les enfants, ils ont ce qu'on appelle des envies ou des désirs. Et ce n'est pas la même chose en fonction du degré de pulsion que peut avoir l'individu. Et effectivement, on parlait du cadre. S'il n'y a pas de cadre, le gamin va se laisser embarquer par ses pulsions, qu'elles soient positives ou négatives. Et il va se nourrir de ça. Et en fonction de ce que ça va lui apporter intérieurement, eh ben il va continuer en fonction de ce que lui apporte ses pulsions. Et il expliquait que c'est comme si on marchait sur un fil, en fait. C'est-à-dire que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre.
C'est un peu, il peut y avoir une addiction en fait qui se met en place, parce que du coup, je vais faire un lien qui n'a rien à voir, mais une personne alcoolique, elle va commencer à boire, elle va ressentir une émotion, elle va être dans un état, en tout cas, et sans cesse, elle va rechercher cet état-là. Donc le lendemain, elle va boire le même verre qui ne va pas donner le même état, donc elle va rajouter un verre, puis un verre, puis un verre, puis un verre, sans comprendre, ou en tout cas sans accepter que tu ressentiras jamais le même état.
Exactement.
Selon le jour où tu l'as bu, l'état que ça t'a fait par rapport à ton état du moment, bah, c'est pas l'état d'aujourd'hui, donc ton verre, il n'aura pas le même résultat. Le cannabis, c'est la même chose, parce qu'on parle de jeunesse, bon, on parlait de parents jeunes, la consommation de drogue en France, on en parle, c'est un réel sujet. Et ce sont des gens qui vont mal, qui ont ressenti un instant T, un bien-être. Et c'est comme si c'était une quête de cet état qui les pousse à consommer.
Comme pour nos jeunes, le désir de faire du mal.
Le désir de faire du mal.
Sans forcément avoir l'intention de tuer. Mais le fait d'avoir ce désir de voir la personne en face lui faire mal ou avoir peur, ou même juste avoir l'expression de la peur, et ben c'est un magazine, voilà, ce désir. Je dis, ah, t'as vu, je suis fort, je lui ai mis la pression, il a peur de moi maintenant. En pensant que la peur va te permettre de gagner du respect. Alors que non. Mais si on ne leur met pas sur un plateau comment dire, si on décortique pas tous ces phénomènes, tous ces effets, ils vont se sentir en confiance. Mmh. Ils vont penser que leur agissement fait partie de la norme, vu que personne ne me dit rien. À part la justice, parce qu'aujourd'hui, il faut entendre leur description de la justice. Ouf.
Ouais, les jeunes et la justice, il y a tout un travail à faire.
Aujourd'hui, on dit, ouais, ils n'ont plus peur de la police. Ce n'est pas question, ils n'ont plus peur de la police. C'est que leur rapport aujourd'hui, c'est, ouais, bon, ils vont mettre quelques mois ou quelques années où je vais avoir une amende. Bon, je suis mineur, voilà ce que je risque. Ils sont dans une lecture biaisée aujourd'hui. C'est-à-dire les sanctions aujourd'hui qu'ils subissent, qui s'abattent sur eux. Bon, si je peux, on peut même pas parler de subir. C'est, pour eux, ça fait partie de la norme. Ça fait partie du game, si on prend leur jargon. Donc, c'est à nous, aujourd'hui adultes, de réfléchir sur une nouvelle forme éducative. Et Aitem l'a précisé tout à l'heure, on a tous connu l'éducation populaire. En dehors de ce que peut nous offrir ou pouvait nous offrir l'éducation nationale, on a eu la chance d'avoir l'éducation populaire. C'est-à-dire ce que la rue a pu nous apporter, ce que certains adultes ont pu nous apporter, ce que certains parents ont pu nous apporter. Parce que hier, on avait des parents bienveillants avec tous les gamins et tous les habitants. Et ça, on le voit de moins en moins.
De moins en moins. Aitem, juste avant de te donner la parole, Bouba, est-ce que tu peux décrire ce qu'est la délinquance, s'il te plaît ?
Ben dans la définition conventionnelle, c'est l'ensemble des infractions commises en un temps et en un lieu donné.
Ok, Aitem.
Ouais.
T'es travailleur social, donc forcément, tu as aussi une connaissance et une approche par rapport à toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être dit ? Et justement de cette délinquance de ces actes de délinquance qui se manifestent.
Moi, je suis perdu un peu.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Je suis perdu hein, parce que je pense qu'il y a la question des limites. Il y a la question de l'empathie. Parce qu'un jeune, s'il n'a pas d'empathie, il commet les actes qu'il commet aujourd'hui. Parce que s'il ne sait pas... je vais faire le philosophe, mais il y a un philosophe qui s'appelle... Omar Zana, qui explique que pour créer de l'empathie vers les mineurs délinquants, tu les fais courir en même temps, tous, et que du coup, ils vont être fatigués, ils vont ressentir l'empathie de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, parce que moi, je les ai après l'acte. Et après l'acte, ils se disent « Putain, je crois que j'ai fait n'importe quoi, etc. » Mais je pense que la socialisation fait qu'il n'y a pas eu de limite. Et qui n'ont pas peur de la ceinture.
Belle métaphore. C'est une métaphore.
C'est une belle métaphore, mais c'est une belle métaphore.
Si je dis ça, c'est parce que ça renvoie à nous. Moi, avant d'arriver à la police, j'avais peur de la ceinture.
Qu'est-ce qu'on est solidaire. Mais oui.
Non, mais on en rigole aujourd'hui. On dit non, c'est intéressant, c'est pas comment. Mais mine de rien, ça, je pense que ça a sauvé beaucoup de jeunes de faire des bêtises parce que. Quand tu as déjà des parents qui t'expliquent qu'ils vont te fracasser. Bon, aujourd'hui, je cautionne pas. Hein, mais ça veut dire que tu te dis, avant d'arriver à l'étape de la police, j'ai déjà mes parents. Ça veut dire que si je passe par la police, c'est comme des...
En fait, il n'y aura pas de police si tes parents sont passés avant.
Bah, c'est comme quand je vois... quand je vois les One Man Show aujourd'hui qui te dit, je suis parti au commissariat, mon père me dit, ne pleure pas, non, ne pleure pas. Garde tes larmes.
Pour après. Quand on rentre à la maison.
Garde tes larmes, ne pleure pas. Non, c'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout compris. Bah,
tiens, une bouteille d'eau.
Tiens.
Parce que eux, ils sont gentils.
Tu vas en avoir besoin. Eux, ils sont gentils, là. Là, t'as fait de la garde à vue, t'as mangé du riz saupiqué.
T'étais bien. Attends, on rentre.
On va rentrer. Mais là, l'enfant, il a plus ça, tu vois. Ça veut dire que quand il arrive à la police, il a déjà fait tout son truc, il a déjà fait son acte de délinquance, c'est ce que je parlais de frustration, de limite, etc. Et du coup, il n'a pas eu tout ça et il arrive et il commet l'acte. Et même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière leur tête? Ils se disent pas que tuer quelqu'un, retirer la vie, c'est un truc de ouf. Ils se croient dans Fortnite ou tu vois. Moi, je suis perdu.
Après, c'est super intéressant ce que tu as dit, Aitem, et moi, je voudrais rebondir sur ça dans le sens où, en vrai, il y a une vraie question sur la posture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le projet Soparc, c'est aussi cette parentalité, accompagner les parents. Parce que, en vrai, même sans frapper ton enfant, Dieu seul sait que nous, on y a goûté parce que nos parents, ils étaient peu outillés. Ils ont reproduit un modèle éducatif et même quand tu parles avec eux aujourd'hui, ils en sont revenus. C'est-à-dire, moi, je sais que ma mère, elle se pose en face de moi, elle me dit, hey, taper, ça sert à rien. Même quand je me mets en colère, elle me regarde et tu te dis, lol, c'est ma mère qui parle.
C'est pareil avec mon père.
Non, c'est la grand-mère. Parce qu'il paraît, il y a des hormones qui se développent. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que mes enfants, par exemple, la façon dont on a procédé avec eux, crois-moi que l'étape de la police, avant qu'elles en arrivent là, elles l'ont ce schéma de papa-maman. Mais pas pour les mêmes raisons, parce que ça ne va pas être une sanction corporelle. Mais crois-moi que je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais elle rentre, elle pleure déjà. Mais je vous donne une anecdote toute bête. Elle va avoir... moi, chez moi, la moyenne, elle est 12. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on a fixé la moyenne, c'est 12. 10, c'est pas la moyenne.
Excuse-moi, mais aujourd'hui, je suis d'accord que c'est 12. Okay, hein, parce que quand je vois que la moyenne de la classe, c'est 15...
Ouais. La moyenne, pour moi, à la maison, en tout cas, c'est 12. Ça veut dire que si tu es en dessous de 12, pour moi, je pars du principe que tu n'as pas la moyenne. Et en fait, c'est tellement ancré que donc, la petite, elle arrive, elle a 11... Elle passe la porte de la maison. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, qu'est-ce que t'as? Et elle pleure. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Vas-y, on s'assoit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es disputé avec quelqu'un? Maman, j'ai eu 11. Oh. Et là, même toi, tu prends du recul et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? En termes de pression, etc. Bon, on en reparlera. Mais n'empêche que, tu vois, cette approche, est-ce que si nous, les parents, on reprenait un peu notre rôle avec nos enfants et qu'on réactive... Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils posent des actes à l'école. Quand tu leur dis, je vais appeler tes parents, vas-y, tiens mon portable. Vas-y, appelle-les tout de suite, tout ça. Mmh.
Mais t'as vu, là, depuis tout à l'heure, on parle d'un type de famille. Mais en vérité, le modèle de la famille, là, éclaté.
Parce que monoparental,
là,
en plus.
Parce que là, on est dans un ensemble de gens qui vivent dans la monoparentalité. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les repères ont bougé et au détriment du bien-être des familles, pour le capitalisme, si on va vraiment loin dans la réflexion, parce qu'en réalité, c'est ça. C'est que pour le capitalisme, pour la société de surconsommation, eh ben, le bien-être des familles, ben, il a en pâtit aujourd'hui. Et on est là-dedans, parce que la plupart même d'exemples qu'on a en tête, là, c'est souvent des familles où, à un moment donné, le papa n'est plus là, la maman essaie d'élever solo, ou même des fois, c'est le papa qui est là, seul.
Oui, ouais, la maman qui est plus là.
Ouais, mais... Bon, j'aime bien te contredire.
De toute façon, ça, c'est votre jeu préféré.
C'est vrai. Mais c'est pour ça que en introduction, je parlais d'immaturité. Tu vois, pas besoin d'être dans une famille monoparentale ou d'avoir les deux parents. Parce qu'aujourd'hui, même si tu vis dans une famille monoparentale, en règle générale, les deux parents restent présents. C'est-à-dire que quand l'école appelle, les deux parents viennent. Maintenant, c'est une histoire de posture. C'est-à-dire que, je vais revenir sur ce que disait Item, aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas une posture de parent, qui, par exemple, là, on parlait tout à l'heure du rapport avec l'éducation nationale, dès qu'on va commencer à indexer leur enfant, bah, c'est tout de suite la faute de l'adulte, alors qu'on sait très bien, nous qui travaillons avec les jeunes depuis plusieurs années, que les enfants mentent. D'accord ? Donc oui, on peut leur laisser le bénéfice du doute, mais si on a un adulte bienveillant en face, on est aussi... capable d'entendre que notre enfant peut mentir. Alors qu'aujourd'hui, il y a des parents, alors que leurs enfants, c'est des diables, ils vont leur donner le bon Dieu sans confession, tu vois. Donc, moi, j'entends ce... Parce que souvent, aujourd'hui, on met tout le temps en avant ce côté, oui, les familles monoparentales, donc c'est compliqué et autres. Des familles monoparentales, il y en a toujours eu.
Ouais, mais pas autant.
Ouais, mais... Et il y en aura toujours. Et on a des exemples. En fait, j'ai des contre-exemples de ça. Du fait que des familles, même des fois des grosses familles qui ont été élevées par un seul parent,
ça tient la route.
Et ça tient la route. Moi, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les parents, ils sont défaillants. Fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une posture. Tout à l'heure, on parlait des codes. Le problème, c'est que tu peux avoir les mêmes codes que ton enfant, d'accord ? Mais tu ne dois pas te comporter comme lui.
Mmh. Mais regarde, moi, je rebondis vraiment sur la monoparentalité. Parce qu'en vérité, tout à l'heure, on a parlé des suivis psy. Pourquoi j'appuie dessus, c'est parce que qui dit monoparentalité dit aussi créer des failles chez ses enfants. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles de mono... Enfin, ben je pense pas, mais il y a beaucoup de familles qui se sont éclatées, qui n'ont même pas traité ce problème que leur enfant il avait dû au divorce. Et du coup, en plus, si en plus ces familles-là, en tout cas ces couples-là, déjà de base n'étaient pas... Enfin, ça se trouve, elles ont été compétentes à un moment donné. Et si elles ne le sont plus, et en plus elles n'ont pas aussi traité elles-mêmes ce problème que leur séparation, en tout cas ce problème que la séparation a généré chez leur enfant. Et il y a un double problème, et moi je dirais même un triple problème. Parce que si en plus t'es immature, en plus t'as généré des troubles chez ton enfant que tu ne traites pas. Et il faut savoir aussi même que, vous le savez comme moi, il y a des gens qui vivent dans la monoparentalité aujourd'hui, comme on l'a dit. Ils sont immatures et ils montrent des choses à leurs enfants qu'ils ne devraient pas. Je vais aller loin, des mamans qui à un moment donné sont en mode solo et je parlais tout à l'heure de l'impact des réseaux sociaux qui ont même déréglé la société. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui à un moment donné, vas-y, je suis solo et je veux un peu revivre ma jeunesse et vas-y que je vis ma jeunesse avec des gens qui viennent chez moi, mon enfant voit ça.
Mais mes
parents aussi, ils sont là, ils sont tellement immatures qu'ils montrent des choses où ils essaient des... Ils font des expérimentations devant leurs enfants, pensant que leurs enfants ne captent pas ce qui se passe. T'es en termes de relations de couple, ou même de relations, pas forcément de couple, mais de one shot. Et ça, c'est très compliqué.
Après, il y a encore deux sujets, parce qu'il y a l'accès aux soins aussi. C'est-à-dire que quand on parle santé mentale ou accompagner l'émotion que son enfant peut ressentir lors d'une séparation, que ça soit en Île-de-France ou dans des zones bien rurales, il y a une réelle question sur l'accès aux soins. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai envie que je peux. Les professionnels, mais deux, on en parle du pouvoir d'achat des familles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, il y a une de mes filles, elle fait de la sophro, la sophrologie. Elle y va une fois par semaine et maintenant une fois tous les 15 jours. C'est 60€ la séance. Ça veut dire, c'est 240, non remboursé, 240€ par mois que tu décides de dédier au bien-être de ton enfant. Moi, je pars du principe que c'est un investissement, tu vois.
Oui.
C'est pas un coût, une charge, c'est un investissement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les familles, elles peuvent se permettre de payer 60€...
Tu vis bien, toi.
C'est ça, d'être à son compte. 60€ pour un soin avec un psychologue. Le psychologue, ça ne suffit pas. Parce que l'enfant, il va entendre, il va conscientiser. Mais tout à l'heure, il l'a dit à Item, il y a... J'entends, je prends conscience, mais après, il faut passer à l'acte. Et là, il y a besoin d'un autre professionnel.
Tu vois, moi, je finirais mon propos par il faut traiter la colère et la tristesse de ces enfants.
Mais comment ?
Ils sont profondément tristes et profondément en colère. Et nous, on en a des exemples de jeunes qu'on essaie de suivre. Mais ils sont dans une colère. Moi, j'ai un jeune là que j'ai en tête. Là, je l'ai dit, sa mère, elle a grandi juste en haut de chez moi avec sa famille. En fait, le jeune, même, je l'ai croisé hier. Et quand je le vois, on lui a parlé, on a beau avoir discuté avec lui, il refait encore, j'allais parler en français bizarre, il recommet, alors que ça ne se dit pas. Il commet des actes, tu vois, répétés. Tu vois.
Il réitère.
Mais est-ce qu'on n'est pas trop indulgent ?
Almami.
Si on n'est pas trop indulgent.
Almami, je sais que ton thé est bon, mais rapproche-toi du micro un peu.
Ah oui, pardon.
Lâche ta tasse.
Est-ce qu'on n'est pas trop indulgent ? Moi, je dirais que... Bon, on ne peut pas faire à la place des parents respectifs. Mais au même titre que des jeunes en difficulté, pour des parents qui, pour moi, ont un bon équilibre, on se doit... Et si l'adulte en face en difficulté l'accepte, on se doit de les accompagner. Ou de les conseiller au moins. C'est vrai que aujourd'hui, ça a été souligné. Hier, tu pouvais dire à un adulte, toi, il faut que tu ailles voir un psy. C'était niette. J'ai dit, de quoi tu me parles, toi ? Je suis pas fou.
Pas de sujet, ouais.
Ouais, parce qu'on a vulgarisé le truc en disant, ouais, les psys, c'est pour les fous. Non, c'est pas pour les fous. J'ai dit, on a des symptômes qui ne sont pas visibles, et on a des spécialistes dans le milieu médical qui sont là pour essayer de déceler tout ça, en fait. Voilà, de démêler les nœuds, j'ai envie de dire. Et quand tu as affaire à des adultes qui sont complètement emmêlés en profondeur, ben forcément, ça aura des répercussions.
Donc on en revient sur... C'est le mal de l'adulte, en fait. C'est la souffrance de l'adulte qui vient...
Se greffer
sur nos enfants et qui se traduisent après dans la société par un mal-être et
profond, plus profond.
Encore plus profond.
Parce qu'ils sont dans, ça a été évoqué tout à l'heure, les enfants, qu'ils soient bien éduqués ou non, sont dans le mimétisme. Et un enfant qui évolue, tout à l'heure on parlait du cadre, bah moi, bon, je le fais pas avec mes filles, mais je me dis heureusement que mon père a pu me recadrer à plusieurs reprises. Parce que peut-être que j'aurais mal tourné, ou peut-être que j'aurais pris tellement la confiance que... Moi, par exemple, ma mère, je me souviens, il était interdit, et je l'ai fait qu'une fois. Un pote m'avait prêté sa Game Boy. Vous savez ce que c'est une Game Boy?
Non, non, mais chez les auditeurs, il y en a qui ne savent pas.
Hein. Ouais. Oui, c'est la Switch.
C'est la Switch Game Boy, d'aujourd'hui.
C'est la Switch, le dinosaure de la Switch.
Ah, t'es vraiment un dinosaure.
Le tyrannosaure de la Switch.
Et je rentre avec ça, j'ai fait demi-tour direct. Il m'a dit tout ce que je n'ai pas acheté.
Ça rentre pas.
Ou qui vient pas de notre portefeuille, ça rentre pas ici. Et moi, ça m'a évité quoi? Ça m'a évité de faire rentrer de la drogue, par exemple.
Bah ouais.
Parce que je savais, comme tu l'as expliqué tout à l'heure pour ta fille, pour sa note de 11, je savais qu'en franchissant
le seuil,
très compliqué,
j'allais être scanné.
Bah ouais.
De la tête aux pieds.
Et en plus, à quoi bon faire de l'argent si tu ne peux pas le dépenser?
Exactement. Et c'était une forme de prévention. Tu vois, aujourd'hui, on nous parle de prévention. Voilà, on est éducateur spécialisé. Mais les vrais éducateurs spécialisés, c'est les parents, en fait, qui ont su poser le cadre, qui ont su expliquer que ça rentre, ça ne rentre pas. Et c'est pas... Elle ne m'a jamais parlé de drogue, ma mère. Mmh. Mais elle a vu ce qui se passait dans le voisinage avec les enfants des uns et des autres.
Elle a... Et du coup, est-ce que tous ensemble, on peut donner des idées selon ce qu'on a de comment, en tant que parent aujourd'hui, je peux poser le cadre, accueillir la souffrance de mon enfant, éviter qu'il bascule ou réajuster, mais gratuitement en fait. Parce qu'il y a des choses en tant que parent qui coûtent de l'argent dès lors que c'est lié aux soins, etc. Mmh. Mais dans la pratique éducative de tous les jours. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses que vous avez mis en place? Vas-y, Bouba.
Je rajouterais juste à notre débat
ouais.
Le terme adulte pas fini. Parce qu'en fait, voilà, il y a un ensemble de parents qui sont des adultes pas finis, qui élèvent des enfants qui eux-mêmes sont pas finis. Et c'est pour ça qu'on en est là, en tout cas dans une certaine situation. Et moi, je pense que, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne. On pourra jamais revenir à l'époque.
Mais Bouba, je te complète.
Oui.
Ça peut pas être des enfants pas finis.
Ouais.
Mais je dirais plutôt des enfants qui ont même pas commencé à être des enfants.
Exactement.
Ouais.
C'est vrai.
Parce qu'il y a la question de la place des enfants et des enfants qui n'ont pas eu justement cette vie d'enfant.
Oui, qui sont devenus trop matures trop vite justement parce que certains constatent que le père ou la mère, ils n'ont même pas commencé à être parents. Quoi.
Même quand c'est l'enfant qui ramène à manger à la maison, etc., alors qu'il n'a pas l'âge de travailler.
Je connais des enfants qui sont plus matures que leurs parents. Ouais. C'est eux-mêmes qui conseillent leurs parents, c'est eux-mêmes qui font la morale à leurs parents.
Mais c'est une vraie dinguerie.
Non, mais là, on va.
Il y en a même qui sont les psychologues de leurs parents.
Regarde, moi, j'ai un ami qui un jour, il me dit voilà, je sais que c'est un homme à femme, tout ça. Là. Et un jour, je le vois lors d'un événement, il me dit Bouba, t'as vu là, je viens de rencontrer une femme avec qui, vas-y. Au début, j'étais pas chaud, voilà, tout ça, mais vas-y, c'est bon. Voilà, elle est enceinte.
Quoi, c'est son fils qui lui a dit vas-y papa tu peux.
Maintenant il me dit je vais voir, il me dit j'en parle à ma fille de 12 ans parce qu'il a au moins 2-3 enfants avec une autre femme, une autre avec une autre femme, une autre avec une autre femme. Et maintenant il a encore un enfant avec cette femme là. Et il était pas chaud pour rester avec elle, tu vois, et sa maman à lui lui a dit tu restes avec elle là, c'est bon là, tu vois. Et du coup, je parle d'un gars qui a 38 ans, hein. Enfin il avait 38 ans à l'époque, 40 ans même, tu vois.
Et c'est sa fille de 12 ans.
Et maintenant à un moment donné il vient il dit à sa fille, il le dit à sa fille de 12-13 ans. Il dit voilà, je vous annonce, je suis bientôt papa avec un tel. Sa fille, elle lui dit, papa, encore? Mais déjà, t'arrives pas bien à nous éduquer. Et toi, t'es là, tu fais encore des enfants avec d'autres personnes. Il m'a dit, j'étais comme ça. Et j'ai regardé ma fille. Et je me suis dit, ma fille, elle me fait la morale. Et moi, j'ai même pas osé lui dire ce que nous, on lui disait il y a 20 ans. On lui disait, toi là, on lui faisait que la morale. Et maintenant, j'ai même pas osé lui dire, mais... Parce que moi, je n'imaginais même pas ce scénario. Mmh. Nous, on lui faisait la morale. Maintenant, c'est ton enfant qui te fait la morale. Il me l'a dit. Donc, je me suis dit, je ne vais pas en rajouter en lui disant, on te faisait la morale à l'époque. Maintenant, c'est ton enfant qui te fait la morale.
On te faisait la morale quand on avait 12 ans. Et maintenant, c'est ta fille de 12 ans maintenant, qui continue.
Fille de 12 ans qui te fait la morale. C'est...
Mais il y a quelque chose que Almami a dit qui est super intéressant. C'est le fait que les enfants soient matures. Matures avant l'âge. Et du coup, le fait qu'ils soient matures avant l'âge, c'est ce qui leur fait pas passer le pas de plein de choses.
Mais après, il faut être outillé.
Oui, mais ça reste des enfants. Donc, il y a des enfants qui ont des responsabilités aujourd'hui, ou en tout cas qui se donnent des responsabilités qu'ils ne devraient pas avoir. Donc, on en revient. Moi, pour moi... C'est les parents, parce que ça reste des enfants.
Un manque d'innocence.
Ça reste des enfants, garçons, et les enfants, ils sont en train de se construire. Moi, je
serai toujours garçons, la faute des parents. Il y a aussi beaucoup de... En fait, je pense même, et je ne pense pas, je suis certaine, que 80% des familles se portent bien, en fait. C'est-à-dire qu'en termes d'éducation, quand tu regardes, c'est une minorité qui vient invisibiliser tous ces parents qui mettent focus sur parce que justement ça va mal, parce que ça explose, parce qu'il y a des morts, et du coup c'est des choses graves. Mais il y a tellement de parents qui font bien les choses, il y a tellement de parents qui éduquent leurs enfants, qui posent un cadre, qui ont des enfants, qui vont à l'école, qui réussissent, qui s'en sortent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question autour de qu'est-ce qu'on médiatise et qu'est-ce qu'on met en lumière? Tous ces profils d'enfants qui vont sur les bancs de l'école, qui s'orientent, qui poursuivent leurs études, qui s'en servent, on n'en parle pas. Tous ces parents qui fréquentent les cafés des parents, qui vont au salon de l'orientation, on n'en parle pas. Et du coup, même dans nos quartiers, on a du mal à mettre en lumière les modèles de réussite. Et d'ailleurs, quand on dit aux petits, si t'es pas footballeur ou rappeur, il n'y a rien à mettre en lumière dans ta carrière. Mmh. C'est-à-dire que même nous, ils nous regardent, ils ne nous voient pas comme des modèles de réussite, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas un gros travail à faire par rapport à ça?
Mais moi, je dis que, en fait, on s'est tous fait avoir par cette société du buzz. C'est-à-dire même cette société du « on met en avant ce qui est sulfureux ». Et ce qui est sulfureux, bah, notamment quand on parle des quartiers, c'est des dysfonctions. Enfin,
ouais, des dysfonctionnements, en tout cas.
Des dysfonctionnements, voilà. J'allais dire dysfonction. Des dysfonctionnements, tu vois. Donc, du coup, nous-mêmes, on s'est fait avoir par le fait que... Parce que même, c'est politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vois des jeunes qu'on suit, qui sont un peu plus dans les études, enfin en tout cas qui sont structurés, et ils reprochent à toute la société de ne se concentrer que sur, entre guillemets, les déstructurés, tu vois, et que...
Ouais, mais du coup, comment on rend sulfureux, comment on rend fun quelque chose qui va bien, un parent qui agit bien, un enfant qui s'en sert, quel est notre rôle à nous pour mettre le curseur? Par exemple, Almami, la dernière fois, on discutait sur les RICS, tu vois, ce qui est mis en place pour lutter contre les violences, etc. Souvent, sont les mêmes formes d'ateliers. Mais tu vois, quand il a dit les premiers soins, ceux qui peuvent sauver la vie, en fait.
Geste de premier secours.
Et du coup, j'aimerais qu'on s'attarde sur ça aussi. C'est, on met souvent le curseur sur ce qui ne va pas. Bah, ce qui ne va pas, ça ne va pas. Il y a une bagarre, il y a un mort, il y a un coup de couteau qui part. Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire pour valoriser ces sauveurs? Celui qui a le courage d'appeler les pompiers parce qu'il y a un corps au sol, la maman qui va descendre, celui qui va donner les premiers soins. Est-ce qu'il n'y a pas justement un créneau à prendre pour mettre en lumière les acteurs positifs pendant ces moments tragiques?
Bien sûr.
Moi, je voulais juste...
Allez-y.
Moi, je voulais juste te dire que cette année, il y a eu, par exemple, 900 morts. Il y a 20 ans, il y avait 2500 morts. Tuer dehors, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, avant, c'était plus violent qu'aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus médiatisé.
C'est ça.
Et puis aussi, nous, par rapport à d'où on vient, nos histoires et tout, nous, on ne veut pas accepter que nos enfants aient les mêmes histoires que nous. Alors qu'ils souffrent du racisme, etc. Mais en vrai, pour les croyants, Dieu merci, comme on pourrait dire, ça va. Franchement, ça va.
Mais c'est ça le problème. Alors,
ça va. Sauf qu'aujourd'hui, tu parlais d'indulgence, on parle de bienveillance. Et on aimerait qu'il n'y ait plus ce genre de problème, qu'on arrête de parler des quartiers. Sauf qu'il y a encore des problèmes de quartier. Et nous, on vit encore dans ces quartiers, même si on fait tout pour y partir. Enfin, moi, j'aime bien, mais après, oui. Je pense que la vraie question, c'est non, il faut relativiser. Et tu parlais d'exemple, exactement. Il faut qu'on arrête de valoriser que les footballeurs et les rappeurs. C'est normal. C'est normal parce qu'ils viennent du terre-terre. Ils viennent du cru. Donc c'est normal qu'il faut les valoriser, tu vois.
Ouais, mais ils y viennent, mais ils n'y viennent plus.
Ouais. Là, c'est un autre débat. Il faut une heure encore.
Et en même temps, c'est normal qu'ils ne viennent plus. Et encore heureux qu'ils viennent plus.
Non.
Autre chose, juste Almami, c'est aujourd'hui, quand tu vois l'incivilité dans les quartiers, toi, tu vas venir pour faire du bien, mais pendant que tu es en train de faire du bien en haut, on est en train de te cambrioler derrière. Mmh. C'est-à-dire que même les enfants eux-mêmes, tu leur dis, ouais, si aujourd'hui, tu avais un pouvoir d'achat, qu'est-ce que tu ferais ? Je quitterais mon quartier, voire même mes potes, parce que c'est eux qui vont me faire des coups tordus.
Exact.
Donc, en fait, comment on peut initier ce retour au quartier quand c'est le quartier qui va te dépouiller ?
Mais ça prouve aussi que socialement, quand tu réussis, tu ne peux plus rester avec cette classe sociale. Pour plein de raisons, comme je te dis, une heure, parce que la jalousie, le vol, et puis tout le monde vient de gratter, etc. Mais en même temps, c'est normal qu'on vient de gratter, parce que c'est grâce à eux que tu as aussi un peu réussi. Mais,
redonne.
Mais des rappeurs et tout, Booba, Yann, je parle même pas, vous savez mieux que moi, les histoires qu'ils vous racontent fantastiques.
Ma mamie, je sais.
Il le sait aussi. Très, très bien. Voilà. Mais aussi parce qu'on fait focus. Là, tout le monde veut être Wilfried Mbappé. J'ai pas dit Kylian. Tout le monde veut être Wilfried Mbappé. Depuis quand on connaît le père d'un joueur de foot ? Tout le monde veut être le père de Kylian, de Wilfried Mbappé. Ils parlent tous, oui, mon fils. Ils embrouillent quand ils ne jouent pas au foot. Des dingueries se passent. Enfin, bref. Mais ça a toujours été. On n'a jamais valorisé. Tu te parlais tout à l'heure, je l'ai vu, le petit jeune de Grigny qui va à la NASA. Franchement, c'est ça qu'il faut valoriser. Tu dis à un jeune, il y a un gars, il va à la NASA, il n'en a rien à cirer. Il ne sait même pas c'est quoi la NASA, il va croire que c'est le nazisme.
Tu parles mal. Non, mais donc, je reviens encore sur des choses très pragmatiques. Quels conseils on peut donner à ces familles et quel modèle de réussite faudrait mettre en avant pour justement changer un peu la donne ? Est-ce que déjà, vous pensez que c'est possible d'inverser la tendance ?
Non, mais déjà, il y a un truc, c'est que toute réussite est bonne à montrer. Parce qu'on n'a pas tous le même curseur au même endroit pour la réussite. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait des rappeurs et des fouteux. Franchement, moi, je ne suis pas de ceux qui mettent en avant le rappeur parce qu'il a percé, le fouteux parce qu'il a percé. Vraiment. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas le rappeur au-dessus, par exemple, d'un boulanger, au-dessus d'un mécano. Moi, franchement, je ne suis pas de ceux-là. Tu sais, moi, je n'idolâtre pas les fouteux ou les rappeurs. En plus, c'est drôle parce que dans ma famille, j'ai des rappeurs et des fouteux professionnels. Mais moi, je les vois au même titre que quelqu'un qui va être boulanger ou mécano. Déjà, il est là. On doit saluer la réussite de chacun. C'est ça qui est important. Il n'y a pas un homme qui est au-dessus d'un autre et une réussite qui est au-dessus d'une autre, dans un premier temps. Et maintenant, pour tu voulais changer, inverser la tendance, déconstruire les choses, et ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps parce que, comme le disait Booba, on est dans une société du bling-bling. On est dans quelque chose où on aime ce qui brille. Donc forcément, ce qui brille, ce qui est pimpant, c'est ce qui fait du bruit, tu vois. Donc il faut revenir à un peu plus d'humilité.
Ok, donc toi, tu dirais
Un peu plus de discrétion.
Ok, ça marche.
Il faut mettre des... Il y a plein d'associations, plein d'entités qui mettent des projets en place de grandes ou de moins grandes envergures. Tu vois, ça peut être des maraudes ou autres, mais à un moment donné, on a un projet qu'on a mettre en place depuis longtemps qui s'appelle « Qui est l'exemple ?» pour reprendre le titre d'un éminent rappeur du 9-4, là-bas, tu vois. Et c'est important. C'est-à-dire que il y a un média comme « Banlieusard Nouveau » qui t'a interviewé il y a peu. Amadou, il fait un travail de malade. T'as vu, il y a peu, il est à l'ONU, il y a peu, il est aux États-Unis. Et son but, c'est de valoriser les forces vives des quartiers. C'est que ça, c'est que de la valorisation, c'est que de la positivité. Et son média prend de l'ampleur. Et moi, j'encourage les gens à aller dessus parce que c'est magnifique. Il est en train de faire un travail de... Mais c'est magnifique. Il est en train de magnifier, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, il est en train de valoriser les gens issus des quartiers qui...
Ouais, mais il met le coup de projecteur,
ouais, c'est ça.
Sur ce que tu viens de souligner. Quels sont les moyens ou les procédés pour mettre en avant justement tous ceux qui font les choses positivement, qui effectivement sont masqués par quelques-uns qui font n'importe quoi.
En fait, c'est comme pour la jeunesse. C'est-à-dire que même la société, on fait beaucoup de bruit pour ce qui devrait ce qui devrait même pas nous intéresser. C'est-à-dire, limite, si personne n'était intéressé par ce genre de fait, s'il n'y a pas de spectateurs, à quoi ça sert de jouer la pièce ? Mais par contre, toutes les bonnes initiatives, elles ont du mal aussi à être mises en lumière et être valorisées. Tu as une ou deux initiatives, mais souvent, il y a un intérêt. C'est-à-dire, une grande fondation, elle va faire une remise de lauréat pour les entrepreneurs engagés. C'est intéressé. C'est pas vraiment te faire briller. D'ailleurs, la prise de parole de l'engagé, elle dure 2 minutes. Mmh. L'allocution de celui qui présente son événement, elle dure 1h30. Mmh. Tu vois ? Et du coup, c'est comment on met véritablement en avant les initiatives de jeunes, mais aussi de parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles, et je signe, qui font le boulot. Mmh. On a des familles qui devraient être de réels exemples et être mis en avant pour solutionner, accompagner celles qui n'y arrivent pas. Mais on ne trouve pas ça.
Il y a l'outil du média. T'as vu ? Ce que là, on est en train de faire, là, parentalité, les réseaux sociaux, même si tu as vu, comme je disais tout à l'heure, il y a un réel problème avec les réseaux sociaux, tu vois, qui... Par exemple, la dernière fois, j'étais en voiture, je roule. Et je sais pas pourquoi ça m'a interpellé là, à ce moment-là. Je roule et il y a une jeune fille qui traverse la route sur les passages cloutés. Et elle se prend comme ça en selfie, comme ça. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais...
Je rigole à chaque fois.
Mais c'est quoi cette société du narcissisme, de l'ultra-narcissisme? Mais tu sais, mais on est arrivé à un truc, mais c'est grave. Pour moi, c'est trop grave ce qui se passe.
Alors, tu dois être attentionné quand tu traverses, même si le bonhomme il est vert. Quoi, je veux dire, tu dois vérifier qu'il n'y ait pas un fou qui arrive. Elle se clique. Ouais. Non, ou elle filme. Elle se filme ou c'est en train de parler.
Et c'est un reflet de. Enfin, jadis, il n'y avait pas tous ces réseaux-là qui ont déréglé nos rapports, même en vérité. Ça a déréglé nos rapports.
Je vais faire un lien même chez l'adulte. Ouais. Moi qui prends encore le bus. Les mamans en poussette. D'accord. Qui préfèrent ne pas couper leur conversation au lieu de se concentrer sur la poussette à faire monter. Même ça me choque.
Le téléphone comme ça.
Bim. Demain, les auditeurs ne voient pas.
Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pour revenir sur ta question et pour compléter Booba, on a besoin, même nous à notre niveau, d'une mise à jour.
Ouais.
D'une mise à jour globale. C'est, effectivement, on est sur les réseaux. Mais on n'est pas sur les réseaux comme on devrait l'être. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as de plus en plus d'enfants, je vois mes filles, hein, surtout une, qui, elle, est persuadée d'avoir la vérité parce qu'elle a TikTok.
Voilà.
J'ai vu sur TikTok. TikTok a dit. Et moi, je lui ai fait l'exemple.
Après, tu devrais te renseigner, va sur TikTok.
Je fais l'exemple. Je dis, ouais. Et la dernière fois, j'ai halluciné parce que j'étais dans la salle de bain. Elle était en train de faire ses devoirs. J'entends, elle est en train de parler. Bon, souvent, on lui dit, ouais, tu parles avec qui? Parce que souvent, elle parle à elle-même. Et j'entends, elle est en train de parler à Siri.
Voilà.
Cours d'histoire géo.
Siri, j'ai pas compris cette question.
Je lui dis, attends.
Oh, c'est une époque formidable, je te jure.
T'es en train de faire tes devoirs avec Siri. Je dis, ben oui, il me donne les bonnes réponses. Est-ce que... Ok. Ok. Ça donne une bonne réponse. Mais est-ce que tu as été vérifié par toi-même? Parce qu'il est là le danger.
Mais c'est ça.
En fait, c'est les raccourcis. Ok, la méthode, bim bim, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as été vérifié? Parce que plusieurs fois, elle m'a contredit sur des choses. J'ai dû.
Aller prouver.
Prouver par Google. Voilà.
Oh, mais est-ce que c'est pas l'éducation?
Mais attends, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis?
Et item, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire sur comment on consomme?
Oui, mais ça, cette méthode-là, c'est pas à la maison qu'elle a appris.
Non.
Non.
C'est à l'école, avec ses camarades.
Ouais, mais t'es venu là à reprendre. Ça prouve que tu l'as dit. Ok, c'est pas faux, c'est bien, c'est pas mal, mais est-ce que t'as été vérifié? Ça veut dire que là, t'as vu tout ton rôle éducatif.
Bah oui.
Et souvent, les gens, ils s'arrêtent à la porte de ça. Ça veut dire, c'est bien, elle s'en sert bien. Mais t'as pas...
Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis?
Non, je trouve ça bien, au contraire.
Ouais, c'est bien.
C'est une évolution comparée à certains de nos parents de l'époque. Par exemple, nous, on est en train de débattre avec nos enfants, alors qu'avant, nos parents...
Ils ne parlaient même pas.
C'est pas le temps, on prend le temps de débattre.
Non, moi, mon père... Pourquoi aujourd'hui, j'arrive à remplir des dossiers? Parce qu'à l'âge de 10-11 ans... Ah, t'es en âge d'écrire? Allez hop, rempli.
On a tous eu ça.
Nom, prénom, tac, 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 tac. Et c'est comme ça que moi, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir les bons réflexes. Mais j'aurais pas eu ça. Parce qu'en vérité, c'était hard. la corvée, cette corvée-là. Mm. Mais en vérité, je dis merci aujourd'hui.
C'était formateur.
Écrire des lettres pour les
merci
au bled, là. Mm. Là. Oui, je dis que...
Non.
Mais même ce truc d'en tête, quand tu prends les jeunes aujourd'hui, tu leur demandes d'écrire un courrier, je ne suis pas sûre qu'ils sachent le faire. Alors que nous, en plus, on est de cette époque où il fallait respecter l'adresse à droite, le, tu vois, à gauche.
Moi, le seul truc où je suis d'accord, enfin, qui m'intrigue, qui... Enfin, en fait, moi, je trouve ça super. Hein. Moi, je trouve ça vraiment génial. Mais le seul truc, c'est que c'est comme le GPS.
Pour le Siri.
Ouais, c'est comme pour le GPS. Ouais. Parce que moi-même, maintenant, avant, quand j'allais dans le 91, frère, je me démerdais à trouver la route.
Ouais.
Tu vois, maintenant, je connais le 91. Tu sais, je connais le 91 comme le 80, sans GPS.
Ouais.
Et aujourd'hui, je vais dans des coins 10 fois. Si je ne mets pas le GPS, je ne sais pas y aller. Ouais, donc, c'est ça le problème de cet outil. C'est qu'il ne faut pas que ça devienne la norme. Enfin, il faut qu'ils l'utilisent. Mais
que ça devienne indispensable.
Le problème, c'est qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont écrit.
Ouais. Ouais.
Mais il ne faudrait pas qu'on soit guidé par ce matériel, enfin, par cet outil plutôt.
Tu sais, j'ai fait le test. J'aurais sorti une encyclopédie.
Oh, ça devait être drôle, ça.
Mais il fallait voir. Réaction. Mais c'est quoi ça? J'ai dit, ça, c'est l'ancêtre de vos téléphones, là, de Google. Mm. Quand on recherchait quelque chose, c'était dans ça, là, qu'on fouillait.
Il y en avait au moins 12.
Voilà. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi... Encore aujourd'hui, leurs sacs sont aussi lourds. Non, aussi lourds de livres.
Ça va.
Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on leur met un ordinateur et autres. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'utilise ma tablette comme bloc-notes. Tu vois, j'utilise plus les feuilles blanches. Mm. J'écris direct. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, c'est une utilité. Mais d'un côté, tu as... Oui, on reste sur les manuels scolaires, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Aujourd'hui, Pronote. Je ne sais pas qui a conçu Pronote, mais...
C'est un génie.
Mais ouais, c'est un génie. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas utiliser.
Bah, le problème de Pronote, c'est que ça part du principe que tout le monde sait utiliser les réseaux. Et ce n'est pas une question d'illitrisme. Hein. C'est, tu peux savoir lire et tu ne t'y retrouves pas. Alors que le carnet de correspondance, déjà, il t'oblige à venir à la rencontre
avoir
de tes parents.
Aussi.
Il est t'es obligé, tu vas voir le prof, mais tu es obligé d'aller à la rencontre de tes parents tôt ou tard. Parce qu'il faut montrer, parce qu'il faut signer. Aujourd'hui, ça a disparu quasiment. Ils ont des carnets de correspondance, il y a trois
juste
fois rien à signer dedans.
Ouais.
Juste pour le
ou ton enfant va rentrer. T'as reçu la notification Pronote? J'ai dit donc c'est Pronote maintenant.
C'est Pronote ton CPE.
Moi, je trouve ça bien.
C'est Pronote mon enfant carrément.
Non, moi, je trouve ça bien Pronote.
Tu vois?
Parce que t'as vu, avant, on attendait que le trimestre se termine pour dire « Mais t'es nul !»
Là, tu te fuis en direct.
Tout de suite, on sent en direct. « Écoute, t'es mauvais. Je sais. » Du coup, on peut anticiper ce qui ne va pas.
C'est vrai.
Moi, je trouve ça plutôt... On ne peut pas avoir le verre à moitié vide. Il faut aussi se dire que c'est...
Non, mais bien sûr.
En fait,
bien sûr.
Il y a plein de trucs qui sont mieux.
Moi, je trouve
ça en
vrai.
Bien. Quand tu regardes, il y a plein de trucs qui sont mieux. C'est juste qu'on ne sait pas les utiliser. Tout à l'heure, tu parlais
d'actualiser. Mais je pense aussi que c'est notre métier aussi. C'est-à-dire que comme c'est notre métier, je pense qu'on a la tête dans le guidon. Parce qu'il y a certains parents, ils sont à milieu de se préoccuper de ce qui se passe en réalité.
Je ne sais pas si c'est se préoccuper ou si c'est avoir conscience de l'impact et de l'importance d'y consacrer du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, tu dois aller vite, etc. Mmh. Et des fois, on fait l'impasse sur des petits moments qui sont très précieux. C'est-à-dire qu'il aurait pu juste dire... Ah, tu demandes à Siri? Ah ouais, pas mal, c'est bon, tu sais bien te servir de l'outil. Mais lui, il a été plus loin. Il a pris 30 secondes en disant, ouais, mais est-ce que tu as été vérifié? Parce que Siri va chercher ses données sur Google, mais Google, il y a tout. C'est-à-dire, moi, si je poste 20 fois quelque chose qui est faux et que je suis bien référencé, il va t'apporter ma réponse.
Souvent, on fait ce procès à Wikipédia.
Bien sûr. Juste avant, Booba et Barberiche mettent les pieds dans la tasse. On parlait des initiatives et comment mettre en lumière les initiatives innovantes, impactantes ou en tout cas qui ont un intérêt d'utilité publique. Mais est-ce que ce n'est pas de notre faute? Parce que nous, est-ce qu'on va consommer ces choses-là? C'est-à-dire que quand quelqu'un poste, 10 bonnes pratiques pour éduquer son enfant, est-ce que quelqu'un va consommer ça?
Mais est-ce que déjà on veut que quelqu'un nous fasse la leçon?
Mais non.
Et c'est ça le problème.
En France, c'est tabou cette question de parentalité. On est les premiers à dire il n'y a pas d'école des parents, on ne sait pas, dites-nous, aidez-nous, etc. Mais quand tu viens avec quelque chose, on est les premiers à dire hey, t'as rien à me dire, toi. T'es qui? Tu ne rentres pas chez moi, tu ne me juges pas, tu ne m'accompagnes pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ça, c'est des. C'est, c'est une réalité qu'il va falloir, à laquelle il va falloir faire face, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui, par honte, par orgueil, ne vont jamais admettre être en difficulté à ce niveau-là. Alors que, en réalité, moi, j'ai toujours dit aux parents que j'ai pu accompagner qu'il n'y a pas de honte à avoir, à être accompagné. Justement, c'est une forme d'entraide, une forme de solidarité. Je dis, si je vois que ton enfant est pas bien, bah ça va me faire du mal aussi de faire ce constat-là. Donc, à mon niveau, moi, demain, je suis en difficulté sur un sujet. Bah, un exemple, quand il s'agit de, par exemple, l'hygiène des filles, je sais que
bah, tu sais
j'ai
pas.
Peur d'être maladroit ou... Je dis, madame, voilà. S'il te plaît. Parce que moi, je ne veux pas m'improviser, t'as vu Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut qu'on soit suffisamment mûr pour parler, revenir sur la maturité, pour l'admettre et l'accepter. C'est pas un mal, en fait. Je dis, on n'est pas la perfection, on n'est pas... tu vois, c'est comment dirais-je, quand t'as les symptômes d'un rhume ou je ne sais quoi, tu vas voir le médecin. Et ben là, c'est la même logique. Tu vois? Attends pas que le pire arrive ou le drame arrive, tu vois?
Et en plus, même quand le drame arrive, il y a certaines familles qui disent « on cache oui. ». Non. On dit à personne, oui. Ça reste à la maison, il s'est rien passé.
Bah, pourquoi qu'on leur place leurs enfants, peut-être.
Ouais.
Ouais, mais...
Mais il n'y a aussi pas aussi un truc autour du regard des autres.
Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de ça aussi.
Moi, je pense que... Ouais, excuse-moi. Non, vas-y. Un champion, vas-y.
T'as été plus rapide que moi.
Question pour un champion. Non, je pense que, en tout cas, pour... rebondir un peu sur ta question, même sur ce que dit Almami là, cette histoire même de l'hygiène des femmes, je pense que nous-mêmes les hommes, il faut qu'on se forme à ça. Tu vois, je sais qu'il y a des formations qui se mettent en place et on est issu de culture où il y a des tabous, certes, mais il faut qu'on détabouise des choses. Et... Alors, c'est vrai qu'on est toujours mal à l'aise hein, face à ça, hein, tu vois, mais il faut absolument qu'on détabouise en tout cas ce sujet-là, là, même si ça ne dit pas.
Mais on fera une émission parce qu'il y a trop à dire. Non, mais en fait, c'est intéressant. Parce que l'idée aussi, c'est que les auditeurs, une fois qu'on va rendre l'antenne, ils puissent eux aussi poursuivre les échanges et les débats. Donc, en fait, plus on donne de contenu, mieux c'est. Mais on arrive presque à la fin de cette émission. Et du coup, les pieds dans la tasse, c'est pour maintenant. C'est quoi votre question du jour?
La question du jour.
Tu suffoques, jusqu'à tu suffoques.
Non, parce qu'en fait, on a cette rubrique, les pieds dans la tasse, où on pose une question ou deux sur la thématique. Moi, la question que je pose, c'est si on a son enfant qui devient délinquant, est-ce qu'on a échoué dans notre mission de parent?
Waouh, toi, t'es d'accord. Tout le monde se gratte la barbe, moi j'en ai pas.
Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que si le gamin tombe dans la délinquance, soit par nécessité, soit il a fait le choix volontaire. Ce que tu lui as inculqué comme valeur, comme code, qu'il va respecter dans la maison. Puisque pour toi, tu vas te référer à ça. Tu n'es pas dehors. Ça, je parle pour les parents qui n'ont pas le pied dehors. Nous, on a cet avantage d'être à la maison et de dehors. Connaître la street. Mais tu as ceux, malheureusement, qui n'ont pas ce réflexe de se dire « Ah, vu que tout est bien à la maison, tout se passe bien, il est respectueux. » Jamais tu vas dire que ton fils dehors, c'est le chef d'une équipe ou c'est un gros chétan. Tu vois? Mais par contre... pour ceux qui suivent, qui ont le suivi, qui ont le temps de suivre ce qui se passe à l'intérieur et à la fois à l'extérieur, ben là effectivement ça peut être considéré comme un échec si ton fils ou ta fille finit dans la délinquance.
Item.
Moi je dis que c'est pas une question d'échec. Si votre enfant est dans la délinquance, c'est pas une maladie, c'est pas récurrent, je veux dire. Il peut faire des fautes. Après, en tant que parent, la question, c'est est-ce qu'il va rester dans la délinquance? Parce qu'il peut délinquer. Mais maintenant, comment on prend cette information et qu'est-ce qu'on en fait? comment on rebondit par rapport au fait qu'il a fait des actes de délinquance. Ou, parce que s'il persiste dans la délinquance, bah là, forcément, on a échoué si ça reste trop longtemps. Mais après, qui n'a pas fait de bêtises, ça se trouve, même là, entre nous, on a peut-être évité la prison pour certains, on ne sait jamais. Donc, ça prouve que voilà, donc c'est une question de... faut pas rester dans... Et puis, il y a des gens qui sont partis en prison, qui sont ressortis, qui ont ouvert des entreprises. Ça ne veut rien dire. C'est pas un... C'est comme quand on redouble. Souvent, je dis à un enfant, c'est pas grave, tu redoubles. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu deviens à la fin. Donc, quelqu'un qui délinque, c'est un échec pour les parents et c'est normal. Mais après, comment on rebondit? C'est plus dur de rebondir.
En fait, c'est un échec si le parent ne rebondit pas.
Si le parent ne rebondit pas et que l'enfant continue à délinquer. Mais aussi dans la construction de l'enfant, s'il délinque, s'il a fait une bêtise, bah, il faut aussi qu'il rencontre la loi, qu'il rencontre des éducateurs, qu'il rencontre que dans la vie, on ne peut pas faire de bêtises, tu vois. Ça fait aussi partie de sa construction. Donc, je ne dis pas qu'il faut délinquer, c'est bien, mais voilà, c'est la question des limites.
En tout cas, moi, je suis mitigée parce que l'éducation... qu'on donne à nos enfants est censé leur cultiver leur libre arbitre de ce qui est bien et ce qui est mal. Je pense que tu vas faire tes erreurs, tu vas faire tes bêtises, mais entre faire une bêtise et ne pas respecter la loi, poser un acte de délinquance, on est d'accord qu'à un moment donné il y a un acte grave qui est sanctionné par la loi. Ça, c'est pas normal à mon sens. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est comment je vais travailler avec mon enfant pour que ça ne se reproduise pas. Mais ce que je vais dénoter, c'est que force est de constater que j'ai loupé une étape. C'est-à-dire que dans les choses que je t'ai expliquées, dans l'éducation que je t'ai apportée, je n'ai pas assez appuyé sur cette notion de tu fais une erreur, mais tu es quelqu'un, ce n'est pas une erreur. Tu fais une erreur, voler, ce n'est pas une erreur. Quand tu voles, si tu as conscience que voler, c'est mal, tu sais ce que c'est. Alors, on va travailler sur tu as posé un acte, tu t'es trompé, tu as suivi. Mais après, il y a petite délinquance et délinquance. Pour moi, personnellement, en tant que maman, si demain, ma fille, elle pose un acte de délinquance grave, qu'elle manque, qu'elle ne respecte pas la loi sciemment, j'ai failli. Après, je vais réajuster avec elle parce que les conséquences de son acte, c'est que moi, j'ai merdé. Et que du coup, comme je n'ai pas vu venir la chose ou que je ne l'ai pas bien abordée avec elle, elle a fait son erreur. Maintenant, je fais vraiment je dissocie vraiment l'erreur de l'acte de délinquance. Voler, braquer, tuer, c'est pas des erreurs qu'on est censé faire. Et
il y a des degrés.
Il y a des degrés différents et après, c'est si ça arrive, comment je vais me remettre en question, comment je vais travailler avec elle. Mais force est de constater qu'à un moment donné, dans mon rôle de maman, j'ai négligé quelque chose qui fait qu'elle a pas compris que pousser quelqu'un, manquer de respect et frapper un policier, frapper sa maîtresse, ça c'est pas des erreurs. Demain ma fille elle vient, elle frappe sa maîtresse, c'est pas une erreur ça, c'est grave. Et quel que soit le désaccord que tu as avec n'importe qui dehors, là t'es pas en train de frapper ton copain, tu vois,
parce que c'est ton échec.
Mais
est-ce que c'est mon échec? Bah en tout cas pour moi, ça veut dire que dans ce que je lui... Après, ça dépend de l'âge qu'il a aussi. Tu vois, on va revenir sur tout ce qui s'est dit. Voilà. À 16 ans, on peut aussi accepter que tu fasses des choix opposés à ceux de ton éducation. Et on peut accepter aussi que son enfant, ça ne soit pas une bonne personne.
Je veux juste revenir, il faut arrêter de culpabiliser les parents aussi. C'est la question de la culpabilité.
Ouais.
Parce que comment voulez-vous que les parents viennent demander de l'aide si la première des choses, c'est de faire culpabiliser les parents? Donc là... parle d'échec, c'est l'échec de la société. C'est aussi ça, de dire faut pas faire culpabiliser les parents, parce que du coup ils vont se dire c'est de ma faute. Donc du coup il y a un repli sur soi, c'est pour ça qu'on cache, parce qu'on se dit on veut pas que les gens ils pensent que c'est de ma faute.
Est-ce que c'est grave de s'être trompé, Aïtem? Est-ce que c'est grave en tant que parent? Et je pense que la déculpabilité, ouais, mais est-ce que la déculpabilité c'est pas en fait, c'est pas de te faire croire que ce que tu as fait, c'est pas grave.
Un vrai bourbier,
hein. Ouais, mais en fait, c'est pas de nous faire croire que ce qu'on a fait, c'est pas grave ou qu'on n'a pas failli. La difficulté, c'est de m'accueillir en me disant voilà, madame, là, il y a eu un manquement. Certes, c'est pas grave. Mais maintenant, comment je vous accompagne à ce que ça. Et c'est pas de dire aux gens franchement, c'est rien. Vous inquiétez pas, culpabilisez pas, c'est rien.
J'ai un bon cas de figure. Sur effectivement le bourbier que Barbeu.
C'est plus les pieds dans la tasse.
Les pieds dans la tasse. Un père de famille
qui se voit convoqué, signalé par l'établissement de son fils sur ses absences répétées. Donc le père prend des mesures strictes auprès de son fils et son fils finit par aller se plaindre à l'établissement. Oui, mon père, il m'a cassé la gueule. Le père se voit convoqué par la justice. Le père ressort du jugement avec une amende de 3000 euros qu'il doit payer à son fils. Son fils rentre à la maison. Le père, face à son fils, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il décide de ne plus recadrer son fils. Ok, la justice m'a condamné, je dois te payer 3000 euros. Le fils, il fait quoi ? Bah, il continue à faire ce qu'il veut. Au lieu d'aller en cours, il traîne. Jusqu'au jour où son fils ôte la vie à un autre jeune dans une rixe. Moi, je rencontre le père. Mais quand il m'a raconté ça, j'étais au sol. Parce qu'il nous a posé la question. Je fais comment ? La juge me condamne parce que j'ai corrigé mon fils, parce qu'il n'allait plus en cours. Je paye encore. Là, je n'ai pas fini de payer. Qu'il est parti ôter la vie du fils de quelqu'un. Et là, aujourd'hui, la justice me convoque parce que mon fils va être placé ou incarcéré. Si je tombe sur le même juge, là, je vais lui dire quoi ? Voilà le résultat. Et là, tu dis la dinguerie. Et le pire, c'est qu'il y a les petits frères. Je crois qu'il y avait le petit frère derrière la porte quand on parlait avec le père. Il me dit, vous avez vu là, le petit, là ? Il mange plus. Et il travaille plus à l'école. Avant le drame. Hein. Parce que le fils avait le sentiment d'être intouchable. Voilà, il était dans la toute puissance. Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Et là, en fait, on laisse le père, quoi, les parents, on les laisse dans la merde. Parce que la justice, effectivement, vous condamnez sur des faits. Mais comme pour nos ados, elle est où la mesure d'accompagnement auprès de la famille ? Pour justement éviter de se retrouver dans ce type de situation. Parce qu'ils n'ont pas cherché à savoir comment ça se passe. Le gamin, il a dit, bon, bah, je suis intouchable. Et en plus de ça, mon père, il me paye.
Folie. Total.
Nous voilà bien démunis.
Exactement.
Pour continuer avec pour mettre les pieds dans la tasse moi-même, j'ai deux exemples. Donc je vais parler de manière très très délicate, afin que ces exemples ne soient pas reconnus, comme nous le faisons ici. Voilà, deux boxeurs. Adultes qui ont des enfants, dont un est un boxeur qui a été pas mal médiatisé, et l'autre est un entraîneur de boxe très très avisé. Donc le premier, est très médiatisé. On se rend compte qu'au fil du temps, son enfant rencontre des éducateurs. Parce que moi-même, je travaille dans le milieu et j'entends que oui, l'enfant d'un tel est suivi, alors que son papa est pas mal médiatisé. Tu vois ? Et parfois prône des choses plus ou moins ambiguës, mais prône aussi le fait qu'à un moment donné, il faut y avoir des principes et autres, tu vois. Et en fait, ce dont je parle, en fait, parce que j'ai oublié que dans mon introduction, je voulais parler des cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je parle de ces exemples-là. Le deuxième, éducateur sportif, boxeur avisé, autre. Malheureusement, au fil du temps, on se rend compte que son fils est rentré dans une espèce de délinquance, est devenu un mini chef de bande et a tué deux personnes, tu vois.
Je sais de qui tu parles.
Et du coup, la réflexion que j'ai, c'est... Est-ce que nous, parents d'aujourd'hui, on aurait cru que certains auraient été aussi dépassés avec notre connaissance de ce milieu dans lequel on a grandi et ce milieu que certains de nos enfants côtoient ?
Mais Bouba, c'est pas parce que quelqu'un a connu la street, d'accord, ou que ça a été même lui-même peut-être un chef de bande qui connaît tous les recoins et qui va pouvoir éviter à son enfant. Parce que comme le disait Item, être parent, ça s'apprend. Tu sais, il y a des mecs, là, tu donnais l'exemple du boxeur, par exemple. C'est pas parce qu'il est boxeur que son enfant, il va pas être délinquant.
Ah ouais, c'est clair.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parent, c'est un métier à part entière. Et avec ses codes.
Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est-à-dire que l'éducation, c'est un travail de tous les jours, dont on verra le fruit que plus tard. Parce que souvent, les gens, ils mettent... enfin, ils vont trop vite. Il est mal éduqué, il est bien éduqué, etc. Et en fait, notre éducation, elle se poursuit jour après jour, année après année. On en verra les fruits ou pas, bien plus tard. Et ça revient à ce que Aïtem disait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants, quand je dis nos enfants, les enfants de la société, que ça soit en banlieue ou en zone rurale, ils posent des actes. Mmh. Nous, on doit les accompagner pour réajuster leurs actes. Et c'est qu'à la fin du bal, est-ce que cet enfant-là, il va poursuivre et rentrer dans le grand banditisme ou pas, ou est-ce qu'il va se ranger? Et du coup, il y a une vraie question autour de l'insertion, de l'accompagnement, de la déculpabilité des parents. Et juste avant de vous laisser le mot de la fin, parce que pour aujourd'hui, c'est fini, nos tasses sont bien refroidies. Et j'espère que chez vous, chacun d'entre vous, vous posez des questions. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on fait bien ou on fait mal les choses. Nous-mêmes, accompagnants de la parentalité, on n'est pas forcément de bons parents. C'est quoi être un bon parent? On est des parents qui essayons, on est des parents qui nous entraînons. On n'est pas là pour se juger ou pour se faire culpabiliser, mais à un moment donné, il faut se dire les choses. Mmh. Quand on a merdé, quand on est à côté de la plaque, on est à côté de la plaque. Il faut d'abord accueillir ça pour pouvoir passer à l'étape d'après. Du coup, je vous laisse le mot de la fin à chacun en 30 secondes.
Est-ce qu'on n'est pas dans une génération sacrifiée?
Super, ça c'est une super question. les auditeurs vont pouvoir se pencher dessus, non, et on fera une émission pour répondre à ta question.
C'est une question vraiment que je pose souvent lorsqu'on doit faire des interventions sur certains secteurs. Des fois, je me dis que cette génération, elle est foutue et qu'il faut prévenir la prochaine.
Ok, le mot de la fin de Barberiche. Réchauffez-vous des tasses à la maison, je crois que c'est reparti pour une heure. Bouba.
Voilà, je rebondis un peu, vraiment, vite fait un mot de la fin. Je pense que chacun ait son propre média pour pouvoir valoriser les initiatives et les bons exemples. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, même s'il y a le revers des médias sociaux, des réseaux sociaux, il y a tout de même une manière et des moyens pour pouvoir bien valoriser ces réseaux sociaux. Et bien entendu, dans les exemples que je citais tout à l'heure, par rapport à cette tasse, c'est le pied dans la tasse, bien heureusement, comment dire, cette minorité dont j'ai parlé ne représente pas cette majorité de bons exemples qui malheureusement n'est pas assez médiatisée, tu vois. Et je suis un ancien rappeur, donc je vais faire des dédicaces. Je suis à Boacar qui est là, mon Paris FM, tu me dis, je viens. Greg aussi qui est là, j'allais dire au platine. Je fais le rappeur, mon frère. Dédicace. Voilà, dédicace à ces messieurs et on va se voir très bientôt et on se voit même là tout de suite. Là.
Ok, merci Bouba. Aïtem.
Je voulais juste dire que le mot de la fin, c'est de ne pas culpabiliser en tant que parent et qu'il y a des personnes, sans lancer le débat, calmez-vous, il y a des personnes à la télé qui vont dire que les personnes issues des quartiers populaires, issues d'une certaine ethnie, peuvent être des délinquants et ces mêmes personnes, leurs enfants ont délinqué. Donc preuve comme quoi que la délinquance peut toucher tout le monde. Et que voilà, mais que derrière chaque jeune, il faut qu'il y ait un éducateur.
Il n'y a ni couleur ni classe sociale. Al-Mami.
Bah moi, je dis tout simplement qu'on apprend tous les jours des uns des autres, et notamment en tant que parent. Voilà, être parent ne veut pas dire être la perfection, ne veut pas dire être l'exemple ultime. Mais un bon parent, c'est celui qui sait écouter, celui qui sait recevoir, celui qui sait donner, qui sait partager. Et donc, bon, à partir du moment où tous ces critères sont remplis, on peut aller que vers le haut, tout simplement. Et effectivement, pas s'arrêter sur effectivement des événements tragiques ou dramatiques, puisque sinon, on arrête tout simplement de vivre. Et je pense que être parent, c'est un travail acharné. C'est toi, tout le monde dit ouais, j'ai un CDI, j'ai un CDD haute. Être parent, c'est un travail à vie. C'est un travail à vie. Et du coup, comme je dis, voilà, aujourd'hui on accompagne énormément de jeunes, et même à travers ces accompagnements là on apprend, on se réajuste, et quand on retourne à la maison, on est même amené à revoir certaines choses avec nos propres enfants, justement parce que on se retrouve face à certains profils. Et on se dit, comment préserver les nôtres?
Merci.
Je rajouterai juste à son propos,
on va se faire chasser. Greg, il est trop mignon. Vas-y.
Celui qui est un bon parent, celui qui sait aimer.
Ok. C'était parentalité. Aujourd'hui, on a fait déborder le chrono, mais comme quoi, en fait, quand on est là, quand on échange simplement, sans jugement, eh ben, en fait, je pense qu'il y a des pistes et des solutions pour tous. N'oubliez pas à la maison, chers auditeurs, de vous inscrire et de télécharger Mon Paris FM. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous retrouver ici et venir aussi participer en tant que parents. C'était Parentalité. Merci à tous. Ciao.